Salam alaikum, vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, on s'excuse pour ce bref retard, on avait un petit problème de sonorisation. Bien sûr, c'est avec un grand honneur que nous accueillons nos frères et amis de l'association Finikiti, avec une collaboration de notre institut Al-Ghazali. Je remercie infiniment notre directeur Jalil Saddiqi qui est avec nous, de nous avoir accordé cette réunion qui est très importante. Le sujet, il est d'actualité, il est d'une extrême importance. La preuve, le nombre de personnes qui sont dans la salle, bien que l'annonce n'a pas été faite, on va dire, d'une façon très, très généralisée, etc. Donc, il y aura l'intervention de Anwar Hassoun qui sera là parmi nous, Inch'Allah, peut-être à partir de 15h ou 15h30 pour répondre aux questions qui vont être posées. Je ne vous présenterai pas donc les personnes qui sont avec nous. En sortant, vous allez trouver un affichage avec un bref CV de chaque personne. Mon intervention sera très brève. Je laisserai bien sûr la parole aux experts qui sont des vrais experts sur le terrain et qui connaissent très très bien ce problème et ce sujet, à savoir la finance islamique, sa réalité, sa problématique, son fonctionnement et surtout la possibilité de son application ici en France et son côté juridique aussi. Donc je ferai une toute petite introduction. Mon intervention serait très brève, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la crise actuelle, la crise économique ou la crise financière, et pourquoi nous sommes amenés à parler de la finance islamique en tant qu'alternative. C'est un sujet très important pour nous musulmans, d'une part, et d'autre part, pour la réalité qu'on vit aujourd'hui. Qu'on soit musulman ou non musulman, nous vivons dans un monde unique. La crise, nous la subissons tous en même temps. Alors, sommes-nous à la fin, vivons-nous la chute du capitalisme, comme on a vécu la chute du communisme? Nous constatons que, de toute façon, l'économie de marché ou le capitalisme en général, les grands théoriciens commencent à parler de régularisation. La régularité, on a assisté à des grands banquiers, à des présidents des républiques, et des grands financiers qui parlent de l'intervention de l'État, chose qui n'existait pas avant. La crise, on nous dit, c'est une crise cyclique. Donc c'est tout à fait normal que ces crises-là financières, on nous dit c'est une crise financière, mais en vérité c'est une crise économique, c'est une crise de pensée. Le capitalisme porte ce que je dis, j'assume ce que je dis, hein. Chacun assumera ce qu'il dit, mais moi personnellement je pense que le capitalisme porte en lui ces germes de contradiction, les fondements même de la pensée capitaliste sont contradictoires. Les penseurs Adam Smith et tout ce qu'ils ont suivi qui disaient laisser travailler, laisser faire, il faut abattre toutes les barrières, non à toute intervention, même les 68 arts qui écrivaient à non-interdiction aux interdits. Aujourd'hui, c'est eux, pas mal d'eux, qui sont des experts dans des banques et dans des postes très importants, appellent à l'intervention et appellent à réguler un peu ce marché qui est devenu un peu fou. En vérité, on a parlé de la vache folle, c'est pas la vache qui est folle, c'est l'homme qui est fou, qui cherchait le profit à tout prix. La crise de 1929, à ceux qui connaissent un petit peu les crises, a été très fatale au monde. Bien sûr, ce sont toujours les pauvres qui payent ces crises-là. On a assisté bien sûr à des crises qui se succèdent, la crise des années 70, la crise des années 80, la crise asiatique, la crise mexicaine. Et aujourd'hui, la goutte qui a débordé le vase, la crise du subprime aux États-Unis, ce n'est rien par rapport à toutes les crises qu'on a vécues. Mais cette crise-là, cette crise financière aujourd'hui, qui, je le répète, n'est pas seulement une crise financière, c'est une crise économique. En tant que musulman, je parle, c'est une crise économique. Pour nous, le phénomène financier ou économique, on ne peut le traiter à part de toute l'éthique d'une vie et d'un comportement humain sur Terre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سورة البقرة الله سبحانه وتعالى أديد القرآن أو croyant craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyant. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Sourate de lavage, verset 279. Alors, Allah, c'est clair et net que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'usure, que riba, ce qu'on appelle l'intérêt, ce n'est pas un dynamo de l'économie comme on a vécu, on a laissé croire, mais il peut devenir quand même c'est un phénomène catastrophique. C'est lui qui va commencer à anéantir ce système qui a été basé sur l'intérêt. Donc l'Occident a assisté à plusieurs crises, commençant par la crise de 1929 et on vient. Un des grands économistes, à savoir Nicolas Dupont-Aignan, dans son article « Les causes et remèdes de la crise financière mondiale », nous dit « La faillite d'un système économique et financier au contrôle des faillites et la finalité discutable. » C'est-à-dire qu'on assiste à des grands économistes, surtout les spécialistes du développement, qui ont tellement crié et parlé sur ces phénomènes-là de crise, que ce sont des crises structurelles, ce ne sont pas des crises de passage, que le capitalisme porte en lui les germes de ces crises-là. Donc il faut réfléchir, il est temps de parler de moralité, ce mot et l'éthique et la morale qui est devenu des termes qui sont devenus péjoratifs. C'est ces grands financiers qui sont vraiment des grands experts dans la finance, mais malheureusement, ce sont des grands experts aussi dans le camouflage de ce qu'on appelle les produits pourris afin de les revendre dans les marchés internationaux. André Comte Sponville, c'est un philosophe français, parle du capitalisme en disant « Le capitalisme ne peut être moral, ni contre la morale, il est tout simplement amoral. » Plusieurs entreprises qui étaient, ou bien des banques, ou bien des banques d'affaires ou autres, on a assisté à leur chute. Si on revient en arrière, 4, 5, 6 ans, c'était impensable que Fortis ou Dexia ou Iporeal Estate ou bien Lehman Brothers, cette grande machine financière, c'était impensable qu'elle chute et qu'elle puisse traîner avec elle toute l'économie mondiale. L'Islande, qu'est-ce qu'elle a à faire? L'Islande aujourd'hui, c'est un pays à vendre. Pourquoi assistons à ces crises financières? Pourquoi ces grands financiers n'ont pas aperçu ces germes, ces explosions, on va dire ces bombes à retardement dans les systèmes financiers internationaux? Pourquoi on a laissé faire des grands spécialistes, on nous les a présentés, des grands spécialistes de la finance, mais on les présente du jour au lendemain comme des bandits qui sont traînés dans les tribunaux internationaux? Il y a un grand problème. C'est que les banques centrales aujourd'hui sont en train d'injecter des centaines de milliards de dollars afin de sauver ce système-là. Au moment où il faut penser aux racines des problèmes de cette crise-là, on continue à investir, on continue à injecter l'argent des contribuables afin de sauver un système financier qui va retomber un autre jour dans ces crises financières. Je peux citer quelques journaux. Marianne, par exemple, dit la faillite du néolibéralisme jusqu'au bout. Le Figaro, par exemple, quand la crise financière rattrape l'économie réelle. Fabius dit qu'il y a une déconnexion totale entre l'économie d'un côté et de la finance de l'autre côté. La Tribune annonce, malgré le bouée de sauvetage du plan américain au système financier américain, la Tribune nous dit non, la crise n'est pas finie. La question qui se pose aujourd'hui, pourquoi l'économie islamique, en tant qu'alternative, nous la présentons en tant qu'alternative à ces crises financières. Challenge un article qui est très intéressant de Vincent Beaufils, qui est l'éditorialiste de ce journal respecté. Il a intitulé un article très important, « Le pape et le Coran ». Vous me permettez de vous lire son article qui est très intéressant, pourquoi déjà ce n'est pas un musulman, et qui est publié dans une revue, on va dire respectable, qui s'intéresse aux entreprises et à la finance. Il dit, en réalité, il s'adresse à Benoît XVI. En réalité, et Benoît XVI nous pardonnera au moment, c'est lui qui dit, au moment où nous traversons une crise financière qui balaie tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faudrait relire que les textes pontificaux. Car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un tant soit peu la charia, nous en serions pas là. Il faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le XXIe siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré. L'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple. Tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié. Interdit les produits toxiques. Oubliez les ABS, CDO, que les spécialistes connaissent de la finance internationale, que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard si les banques du Golfe, il parle des banques du Golfe, mais en général, les banques islamiques ne sont pas seulement situées dans les pays du Golfe, sont sorties indemnes de la crise du subprime, c'est qu'elles n'y sont pas rentrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la relation que chacun entretient avec l'argent. Qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers, les personnes morales n'ont ainsi pas le droit de s'endetter au-delà de leur capitalisation boursière. Quant aux personnes physiques, elles ne peuvent de facto souffrir sans surendetter. Voilà des règles qui ne peuvent pas nuire, et même si elles se reposent sur un texte qui date du 7e siècle. Benoît XVI aura du mal à faire des sermons davantage puisés dans l'actualité. C'est un article, c'est quelqu'un qui, dès la réalité, il parle, il dit, voilà, on doit mettre notre doigt sur où ça fait mal, il faut dire les vérités, il ne faut pas avoir peur de parler de moralité et d'éthique. Un autre spécialiste, cette fois-ci, de l'hebdomadaire Le Journal des Finances, c'est Roland Laskin. Vraiment, il a eu un titre un peu audacieux dans son journal Wall Street, mur pour adopter les principes de la charia. Il dit, si nos dirigeants financiers cherchent vraiment à limiter la spéculation, rien de plus simple, il suffit d'appliquer des principes de la charia. Interdit de vendre des actifs que nous possédons, que vous ne possédez pas de façon effective ou de réaliser des opérations de prêt d'argent moyennant rémunération. Interdit surtout de spéculer sur des boires d'une entreprise. Le seul moyen de s'enrichir, c'est de participer au développement d'une entreprise et d'en percevoir les fruits en étant présent au capital. Des principes simples et de bon sens que tout détenteur d'actions ou de contrats d'assurance vie indexés sur la bourse aurait voulu avoir appliqués plus tôt. Le problème est que ces principes de gestion ne correspondent, c'est ça le cœur du sujet, que ces principes de gestion ne correspondent ni à la tradition occidentale, ni à nos convictions religieuses. Pour que le système fonctionne, il faut surtout que tout le monde s'y conforme en même temps. Car dans un modèle où la spéculation est reine, aucun titre, fut-il trié sur le volet, n'est à l'abri d'un mauvais coup. Donc on constate que ce sont des gens qui disent pas n'importe quoi, ce sont des éditorialistes, des revues, journaux et magazines spécialisés en la finance qui disent, qui crient, qui sonnent la sonnette d'alarme, ils disent que, attention, nous assistons à une chute du capitalisme, il faut repenser l'économie de marché et voir quels sont les vrais problèmes de cette pensée-là et ne pas seulement injecter de l'argent et faire appel à monsieur Trichet, etc. Pourquoi donc la finance islamique est une alternative? Évidemment, nous assistons un peu. Les banques islamiques, ils ont pratiquement depuis 2005, ils ont fêté 30 ans de leur existence. Le taux de croissance varie entre 10 et 30% en fonction des classes d'actifs. Donc leur taille de marché représente entre 500, 700, voire 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que la finance islamique? De toute façon, je laisserai cela à nos experts, mais je dirai seulement un mot. La finance islamique, grosso modo, c'est l'interdiction du riba, l'usure, pas d'usure. Bay' al-Gharar al-Maysar, je laisserai mon ami et frère Tarak, inshallah, parler et détailler cela. Il le fera beaucoup plus que moi. Pas de secteur, l'interdiction d'activités économiques ou financières dans les secteurs d'alcool, de tabac, de pornographie, etc., l'obligation du partage des profits et des pertes, qui est un principe fondamental dans la finance et l'économie islamique, le principe d'adossement d'actifs tangibles, les transactions financières islamiques doivent avoir un lien direct avec l'actif réel et tangible avec l'économie réelle. C'est-à-dire que l'économie islamique ou la finance islamique, c'est une économie qui marche avec la réalité de la fonction économique de l'entreprise. C'est une approche ou bien une pensée qui marche avec la réalité du terrain. Elle est loin de la spéculation virtuelle et qui tend à vendre des produits, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourris, et qui fait maquiller cette finance-là, qui nous dit que c'est le dynamo de l'économie. En fait, tous les experts de développement l'ont dit, ça fait très longtemps qu'ils ont sonné, Jacques Ostrui et tous les experts l'ont dit, qu'on va droit face au mur. Il faut freiner cette folie de la spéculation financière et arrêter de dire que ce n'est qu'une crise de passage et c'est une crise cyclique qui est normale. C'est pas normal que l'argent soit l'objectif. Nous devons revenir et comprendre que l'argent doit servir à l'homme et non pas le contraire. Donc je vais me limiter à cela. Je laisserai la parole à mon ami et frère Tarak, qui sera suivi par mon ami et frère Sibi, Malé Sibi, et aussi probablement Kader, donc on espère qu'il sera là d'ici peut-être 16 heures. Notre ami aussi, Mohamed Fawzi Chiraki, et mademoiselle Christelle Bollier. Je vous laisserai la parole, à chacun son tour, et je vous remercie infiniment.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وطبيبنا وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut Al-Ghazali des formations des imams pour cette aimable invitation. Comme vous le savez, l'Institut Al-Ghazali des formations des imams se place sur un terrain assez sensible qui est effectivement la formation religieuse, et je salue les efforts louables de ses dirigeants et cadres, et c'est vraiment un modèle à la fois au niveau du contenu qui est assez authentique des cours, et aussi du juste milieu et de Wasati Yaoul Etidal dans laquelle se place, alhamdoulilah. Donc j'espère que des instituts comme ça, il y en aura plusieurs, on en a besoin en France et en Europe. Mon intervention va s'articuler autour effectivement de deux grands axes. Donc premier axe, c'est effectivement les fondements de la finance islamique, donc la morale sur laquelle se base l'islam, et qui est, on va dire, le tronc commun entre les trois religions monothéistes. Et puis ensuite, un zoom, on va dire, sur quelques contrats que la finance islamique utilise particulièrement et qui forment à peu près 90% des actifs de la finance islamique, des banques islamiques dans la pratique d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, la finance islamique s'articule, comme beaucoup d'entre vous le savent, autour de trois axes, ce qui fait d'elle un sujet très épineux et très vaste. Premier axe, c'est évidemment fiqh al-mu'amalat, donc la jurisprudence des transactions en islam, parce qu'il y a une ligne de conduite qui gère le comportement commercial du musulman vis-à-vis du musulman, vis-à-vis des autres, parce qu'il n'y a pas de distinction entre, contrairement à ce que peuvent penser certains, il n'y a pas de distinction entre musulman et non-musulman concernant le comportement vis-à-vis de l'autre. Donc quel que soit l'autre, évidemment, le comportement doit être le même, basé sur l'équité, sur la transparence et sur une éthique que nous allons essayer de développer. Ça, c'est le premier axe. Donc, c'est l'axe principal, c'est l'axe central. Donc, c'est tout ce qui est fondement donc, de faire al-mu'amalat. Deuxième axe, qui est aussi important, c'est la finance conventionnelle, parce qu'évidemment, ce qu'on appelle faire al-waqi' est lié à cette finance islamique. La finance islamique se pratique dans un temps et dans un lieu. Donc, effectivement, elle se projette sur ce contexte-là, qui est la finance conventionnelle. L'ingénierie financière en général. Et on va voir que nos fuqaha, hein, à travers les shari'abas, à travers les mujamma'at fiqhiya, ils ont réussi quand même à utiliser intelligemment la finance conventionnelle et, on va dire, l'épurer, entre guillemets, de ce qui est nocif, de ce qui est nuisible et de ce qui est contraire à la ligne de conduite de fiqh al-mu'amalat. Troisième axe, qui est important aussi, qui fait partie du contexte, c'est le droit français. Donc, dans le cas de la France, c'est le droit français. Donc, évidemment, il faut voir un peu l'interaction, le frottement de la finance islamique avec à la fois la fiscalité, avec à la fois ce qui est les sujets un peu les lignes rouges de la laïcité, etc. Donc, et tout cela, on va le voir au fur et à mesure. Et sachez évidemment que la France a vraiment fait des pas de géant pour essayer d'améliorer son système juridique, et ça, Fawzi Sharaqi va en parler. Il a essayé effectivement de faire des pas de géant pour améliorer le terrain, pour que le terrain français soit susceptible d'accueillir la finance islamique. Donc Christine Lagarde a annoncé en mai 2008 déjà, et le rapport du Sénat l'étayait, le rapport du Sénat du 18 mai 2008 et de décembre 2008 aussi, elle a dit que notre marché, le marché boursier français, va être modifié de façon à rendre la finance islamique de la rendre accessible en France comme elle l'est déjà, la bienvenue dans le marché boursier anglais. Donc on sait qu'aujourd'hui l'Angleterre est la plaque tournante de la finance islamique en Europe. Donc tout d'abord, avant propos, comme vous le savez, l'islam est la continuité des trois religions monothéistes. Les trois religions monothéistes partagent en effet plusieurs valeurs, car ils proviennent de la même source, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le souci, c'est comment travailler ensemble, comment avoir un dialogue à la fois qui respecte l'identité de chacun, un dialogue constructif, pour essayer de travailler autour de ce tronc commun pour aboutir à une paix réelle et durable. Parce que qui dit paix économique, dit paix sociale. L'objet de la révélation est d'aider l'homme à parvenir à apaiser ses doutes pour arriver à la paix du cœur d'une part et d'autre part de lui montrer le meilleur comportement culturel, social, politique et économique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: "Wa law annahum aqamu at-tawrata wa al-injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun." Donc s'ils avaient, donc le Coran nous dit, s'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux, de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Sourate 5, verset 66. Donc Dieu a créé l'homme à partir d'argile, puis l'a gratifié en lui insufflant de sa lumière, de son esprit. Dans le Coran, dans Sourate Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et il lui a donné sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Donc ce souffle divin que Dieu a placé dans chaque homme et chaque être vivant et nous impose un respect de tous les êtres sans distinction. La nature argileuse de l'âme humaine qui le pousse à l'insouciance, à l'amour de ce bas monde et à céder aux insufflations du diable et de l'âme charnelle sont en conflit ou en confrontation avec sa nature lumineuse, qui est cet esprit venant de Dieu, et qui l'incite effectivement à s'inscrire dans une morale et dans une éthique. L'islam essaie de donner cet équilibre entre les axes de l'esprit, du corps et de la vie donc de l'humain pour que cet équilibre soit porteur de lumière et de soutien. Et donc, là où je veux en venir, c'est que Malgré cette nature argileuse, l'homme reste responsable, reste le plus honoré. Laqad karramna bani Adam, on a honoré les fils d'Adam, et donc le plus responsable. Et Dieu, comme vous le savez, a dit dans le Coran à ses anges avant la création de l'être humain, il leur a dit: je vais placer sur cette terre un vicaire, un lieutenant. Et donc cette lieutenance, cette responsabilité implique que Dieu nous a confié un dépôt sacré. Amana. Na'arna al-amana ta'al samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Nous avons proposé l'amana. Nous avons proposé le dépôt sacré à plein de créatures, mais ils ont refusé parce qu'elle est très lourde à porter. Et l'être humain l'a porté pourtant. Donc ce dépôt qui est constitué de notre corps, de nos biens, et des biens par lesquels Dieu nous a gratifiés, nous impose un respect, nous impose, parce qu'on est dans cette terre, on est des locataires, donc on a un dépôt sacré. Et c'est pour ça que l'islam, entre autres, interdit le suicide, parce qu'il considère le corps comme un dépôt sacré de Dieu. Ça ne nous appartient pas à nous, c'est Dieu qui nous l'a confié sur cette terre. Et donc il nous a confié, entre autres, l'argent. Le malou, malullah. Donc, et ce pacte entre l'être humain et Dieu, il a été accepté par l'être humain, avant même la création. Ce qu'on appelle le pacte primordial, comme vous voyez dans sourate A'raf. وَإِذَا خَدْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Il leur a dit, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Ils ont répondu, oui. Donc ils ont témoigné, l'être humain, quelle que soit sa religion aujourd'hui, dans un autre monde, il avait témoigné qu'il acceptait ce dépôt, qu'il acceptait cette responsabilité. Donc il est, pour aller plus vite, il y a effectivement un aspect comportemental en tout. Le prophète Naslama nous a effectivement cité pas mal de hadiths, entre autres, je cite, la religion est entièrement comportement. Entre autres aussi, rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de la résurrection d'un bon caractère. Et donc ce bon caractère, on va le voir, donc il va se généraliser jusqu'à arriver effectivement au comportement avec toute créature. Par exemple, regardons le comportement du musulman avec la vie, quelle que soit cette vie. Donc l'islam considère toute vie sacrée. Il a un comportement aussi vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des plantes. Donc on trouve par exemple beaucoup de hadiths, enfin, c'est pas le propos, mais il y a beaucoup de hadiths effectivement qui incitent le croyant à prendre soin de la nature. Par exemple, il dit, nous dit, chaque musulman qui plante une plante, arbre ou autre, alors tout ce qui en sera mangé sera compté comme acte de charité pour lui. Il dit aussi, si la fin du monde venait à survenir alors que l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. Donc, ça nous montre un peu l'importance. On trouve aussi dans le hadith comment le prophète Nassim a dit qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'une chatte qu'elle a enfermée, qu'elle n'a pas laissé manger, etc. Donc on considère aussi l'eau comme la source de la vie. On a fait de l'eau toute chose vivante. Donc tous ces éléments qu'on va survoler, parce qu'effectivement c'est tout un sujet, nous amène à dire que l'islam, dans sa logique saine et dans son éthique englobante, eh bien, il a essayé d'avoir une ligne de conduite par rapport à tout ce qui est comportement horizontal de l'être humain avec son prochain et avec les créatures, et comportement vertical. C'est-à-dire il ne s'est pas intéressé simplement à ce comportement vertical, à l'aspect culte de la religion, mais il y a aussi tout un aspect éthique qui est central dans la religion. C'est-à-dire que même le culte, si on médite les prières rituelles en islam, ou le jeûne, l'école du jeûne, ou l'école du hajj, ou n'importe quelle école de culte, n'importe quelle obligation culturelle que le musulman accomplit dans son quotidien ou par moment, eh bien, derrière chaque acte culturel, il y a un symbolisme, il y a une spiritualité, il y a une éthique. La gestion économique actuelle, donc comme exemple de gestion de nos ressources, aujourd'hui on constate qu'il y a effectivement des failles et des dérives très importantes. Ces dérives sont le résultat direct de cette absence de Dieu dans les comportements de l'humain, dans cette absence d'éthique, de morale dans les comportements de l'humain. Et quand je dis Dieu, certains vont me reprocher qu'on va revenir dans les crises de religion et de l'instrumentalisation de la religion. La finance islamique, on l'appelle islamique, mais c'est pas simplement l'islam, c'est pas seulement l'islam, c'est toutes les religions monothéistes, toute la logique saine de l'éthique qui est là. Donc c'est pas simplement une idéologie, c'est pas du tout une idéologie. Donc mon frère a cité l'article dans Challenge du pape et du Coran, qui nous montre encore une fois que les principes islamiques ne sont pas là pour gêner ni pour freiner, mais sont là justement pour permettre un épanouissement total, un épanouissement réel, parce qu'ils ne voient pas simplement la gestion des richesses à court terme, mais ils voient surtout la gestion des richesses à moyen long terme. Et ça, les économistes et les financiers actuels ne le font pas. Aujourd'hui, il y a des gestions de court terme, voire très court terme. La relation de l'islam avec le matériel, avec l'argent particulier, c'est qu'il considère l'argent, effectivement, comme une épreuve. Malou malullah, comme une chose de Dieu. Et Allah nous a éprouvés, donc Dieu nous a éprouvés par cet argent pour savoir si on va remercier Dieu ou si on va effectivement vers des dérives et suivre nos passions. L'islam a mis en place ce qu'on appelle la zakat, l'aumône purificatrice légale, comme pilier de l'islam, pour mieux distribuer les richesses et subvenir aux besoins des pauvres, justement pour avoir cette paix sociale, parce que la paix sociale est directement liée à la bonne continuité de la vie. Le but de la zakat, donc, est réaliser l'équilibre social, à l'issue sociale, d'empêcher ce monopole d'argent par une partie de la population et encourager la circulation des biens, parce qu'effectivement, la zakat, elle permet la circulation des biens. Le modèle économique islamique est donc un modèle qui est différent du capitalisme et différent du communisme, car si dans le capitalisme, l'argent est à l'individu, et si dans le communisme, l'argent est à l'État, ben, en islam, l'argent est à Dieu. L'islam aussi encourage les aumônes volontaires, les actes de charité. Il a mis en place ce qu'on appelle l'Waqf. Ça, on va le voir dans les rôles des banques islamiques, des banques et assurances islamiques. On va voir tout l'aspect fiducie, Waqf, qui a permis pendant des siècles à des familles, à des populations entières de survivre. Donc, une solidarité sociale, ce qu'on appelle tsekaful, on va le retrouver dans les axes de la finance islamique. Il a donc imposé, l'islam a imposé un certain nombre de règles. Donc, il découle des grands principes de la justice, de l'équité et du consentement mutuel des contractants. Ces mêmes règles, on va les retrouver dans les trois livres sacrés. Dans les trois livres sacrés. Donc, il y a eu une étude assez fine sur, on va dire, l'origine du christianisme et ce qui a été dénaturé, ce qui a été, entre guillemets, falsifié dans les livres sacrés d'avant. On retrouve les notions que je vais citer dans les trois livres sacrés. Donc, pour les contrats de vente, donc le cadre est le suivant. Donc, premièrement, l'interdiction du riba. Donc, mon frère a parlé du riba. Donc, le riba, étymologiquement, c'est le surplus, l'usufruit. On le trouve dans pas mal de versets du Coran, et sous différents sens. Le sens premier du riba, c'est fructification. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier, yurbi, les aumônes. Et donc on distingue deux sortes de riba, donc riba dans les échanges et riba dans les crédits, riba al-bouyeu ou riba al-qurud. Et on peut aussi de façon plus générale distinguer deux sortes de riba, deux sortes d'usure. Une parenthèse, c'est que le taux d'usure et le taux d'intérêt en islam, les deux sont interdits. Il n'y a pas alors si dans la loi française le taux d'usure est interdit et le taux d'intérêt c'est ce qui est pratiqué, c'est ce qui est autorisé. En islam, non. En islam, le taux d'usure et le taux d'intérêt, c'est une même chose. Parce qu'elle correspond à une vente de crédit. Vous vendez le crédit, et ça, en islam, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça s'appelle bi'al kalb, on va en revenir. Riba al-nasi'a, donc c'est la première catégorie de l'usure. Riba al-nasi'a, c'est-à-dire à terme. C'est-à-dire, c'est ce que vous savez tous, c'est la somme payée pour l'usage des capitaux empruntés. Ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une dette. Donc, c'est-à-dire, vous donnez à quelqu'un de l'argent, il vous rend cet argent-là avec un surplus, défini d'avance dans le contrat. Donc ça, c'est riba nasi'a, à terme. Et c'est ce qui a été interdit clairement dans le Coran, dans le verset que mon frère a cité. Parce qu'il supporte évidemment une injustice, très clair. Et c'est parmi les grands péchés en islam. Deuxième, c'est riba al-fadl. C'est une vente ou échange d'un bien contre un autre de même nature ou avec un surplus, avec évidemment changement de la date ou changement de la quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce propos, de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, quantité égale contre en quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt. Donc, ce genre d'usure, il concerne chez par exemple les Malikites, les produits provisionnables, comme le blé, ce qu'on vient de citer, les catégories qu'on vient de citer, ils sont extrapolables. Et en général, ça concerne effectivement les produits provisionnables, le fait d'échanger des produits avec une quantité différente ou à des termes différents. Alors, pour éviter toute injustice et toute tromperie, l'islam impose effectivement que ce soit de main à main et de quantité égale à quantité égale, s'il s'agit effectivement de la même espèce. L'islam aussi encourage donc ce qu'on appelle le qard al-hasan. Qard al-hasan, c'est le prêt d'honneur au lieu du prêt usuraire, et c'est Dieu lui-même qui s'occupe de rémunérer ce prêt que vous donnez à votre frère ou à votre sœur pour l'aider donc momentanément. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque prête à Dieu de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Dieu restera ou étant serveur, c'est à lui que vous retournerez. Or, c'est un principe très important qui veut dire que vous donnez du délai gratuit à celui qui est, on va dire, dans la difficulté par rapport au remboursement de son dû. Deuxième grande interdiction, c'est le qimar, ou ce qu'on appelle aussi le maïsir. Pourquoi le maïsir? Ça vient du verbe yassir, yassir, de l'adjectif yassir. Parce que les Arabes, avant l'islam, ils utilisaient ce produit-là, cette façon-là, ces jeux de hasard, si on peut appeler ça, parce que c'était de l'argent facile. Lieu, c'est, ça veut dire la facilité. À l'époque, évidemment, c'était utilisé à grande échelle. Et on va voir dans la pédagogie coranique, n'a pas interdit d'une seule fois, il n'y a pas eu les interdits d'un seul coup. Il y a eu une pédagogie évolutive dans le Coran. Il y avait effectivement les versets mécois qui disaient que ces choses-là, ils ont des méfaits plus que des choses utiles. Donc une partie des compagnons a cessé, une autre partie n'a pas cessé. Donc c'était pour préparer cette société qui venait de naître, cette société islamique qui venait de naître, pour à la fin avoir ce commandement strict et immuable qui va être l'interdiction explicite et claire du maïsir et du vin, etc. etc. Donc c'est pour savoir en fait qu'il y avait une pédagogie évolutive et éducative. Donc le qimar, il a été explicitement cité dans le Coran et interdit dans la sourate 5, versets 90 et 91, qui est venu abroger les autres versets. Donc, vous qui avez cru, le vin, la divinisation par les entrailles des victimes, ainsi que le tirage au sort, donc les jeux de hasard, le maïsir, ne sont qu'un acte impur de ce que fait Satan, donc évitez-le. Donc là, c'est l'interdiction explicite. Donc spéculer, parier sont des synonymes aussi du maïsir. Donc on va voir les formes du maïsir qu'on peut avoir aujourd'hui dans le marché. Troisième grande interdiction, c'est le gharar. Ça, c'est très important, qu'on va retrouver dans les assurances commerciaux et dans certaines formes de capital risque. Le gharar se définit comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance, jahala, sur l'objet du contrat. Donc la vente gharar est celle dont on ne sait pas si l'objet existe ou non, on ne connaît pas quelle est sa quantité, ou s'il sera possible de le livrer ou non. C'est par exemple les contrats futurs, les forwards, etc. Tout cela, il y a un élément de gharar, un élément d'ignorance dans un des aspects du contrat qui est clair. Donc l'islam, pour empêcher cette injustice probable, eh bien il a interdit toute forme de gharar. Le gharar, donc, il reprend les activités qui ont un élément d'incertitude extrême, d'ambiguïté ou de déception. Parmi les choses qui ont été explicitement interdites à ce niveau-là, le prophète Sosema nous a interdit de vendre, par exemple, l'oiseau dans le ciel, ou les poissons dans l'eau, ou le lait dans les mamelles des vaches, par exemple, sans mesure. Donc ça vous donne un exemple de ce que peut être le gharar excessif, et ça peut être anecdotique, mais c'est ce qui s'est passé dans les suprêmes. Il y a eu ces éléments d'incertitude et d'ignorance. Donc le gharar, s'il est excessif, évidemment, il est interdit. S'il n'est pas excessif, parce que dans chaque transaction, il y a un petit peu de gharar quand même. Hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas connaître d'avance. Donc ça, c'est tolérable en islam. Donc le gharar, il est yassir, lam yuharram fil bay'. Comme par exemple le fait de vendre par exemple les carottes qui sont sous la terre, vous ne pouvez pas savoir si cette carotte est... Donc voilà, c'est un exemple. L'interdiction du gharar est citée notamment dans le hadith du prophète Aslama. Le prophète Aslama interdit l'achat d'un animal non né dans la matrice de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l'achat d'un butin de guerre avant sa distribution, l'achat des dons de charité avant leur réception et l'achat de ce qu'a pêché un pêcheur avant sa pêche. Donc, vous voyez là, après on peut extrapoler et faire des analogies pour ce qui se passe aujourd'hui. Quatrième chose, on n'investit pas dans l'illicite, donc ni la vente, ni l'achat, ni l'investissement. Ne sont autorisés pour ce qui est des secteurs illicites. Les secteurs illicites comme les vins, le tabac, tout ce qui est spiritueux, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est le jeu de hasard, tout cela effectivement font partie, l'industrie porcine, etc. Donc tout cela, ça fait partie des interdictions divines et dans lesquelles on ne peut pas investir. On va voir après les participations de quelques fonds islamiques, de quelques banques islamiques, dans, indirectement ou directement, dans ces fonds-là, dans ces secteurs-là, et l'implication par rapport aux dividendes et par rapport à ce qu'on appelle la purification de la part souillée par émission de dividendes. Évidemment, il y a la satisfaction et consentement des deux parties contractantes et le fait que les deux parties soient au courant de toutes les clauses du contrat, pas de rabais. Donc, le rabais, il ne faut pas, donc pas de tromperie. Donc, dans les ventes aussi, il y a des choses qui sont interdites. Dans les ventes directes, ce qu'on appelle les ventes directes, la dissimulation, la falsification, le dol, la tromperie, le fait de cacher les défauts, de mélanger la basse qualité avec la bonne et de taire à propos de la marchandise ce dont la mention déplairait à l'acheteur ou diminuerait les prix de vente. L'annulation d'une partie de la dette contre le paiement avancé d'une autre partie ou le report de l'exigibilité de la dette contre son augmentation sont illicites. Ce qu'on appelle bel kali. On va peut-être. Là, c'est assez délicat, mais c'est ils ont réussi à le faire quand même. Ils ont réussi à faire ce qu'on appelle des produits de dette, donc des ventes de dette, etc. En islam, c'est interdit, mais le transfert de dette en lui-même, c'est ce qu'on appelle hawala, est autorisé. Mais il y a des conditions et ça ne doit pas être commercialisé. Il y a ce qu'on appelle aussi le gharar, une forme de gharar qui est autorisée, c'est le bi' salam, donc que je vais détailler. Il concerne la vente avant le mûrissement par exemple des graines ou avant que la chose soit prête. Donc elle peut être promise sans qu'elle soit prête. On va voir comment. Il y a aussi ce qu'on appelle najash. Il s'agit du fait que quelqu'un qui ne veut pas acheter, mais qui assiste aux enchères juste pour enchérir et augmenter le prix, et tromper ainsi le ou les acheteurs. Donc, ce qu'on appelle najash, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc najash, c'est ce type de tromperie. Donc il y a effectivement beaucoup de choses qu'on peut extraire des grandes interdictions qu'on a citées, à savoir riba, gharar, messir et les secteurs illicites. Et enfin, on n'a pas le temps de tout dire, mais voilà les grands principes, on va dire, sur lesquels s'est basé l'islam. Donc, je résume. Donc, il y a riba avec ces deux catégories, il y a le gharar, donc tout ce qui comporte des aléas, des incertitudes, de l'ambiguïté, et de maïsir, donc tout ce qui est jeu de hasard, spéculation et jeu de hasard, et puis donc la tromperie avec toutes ses formes. Il y a aussi, comme vous le savez, la concurrence déloyale et le stockage spéculatif. Donc ça, on va pas. Et en islam, on va y revenir. C'est pas l'autorité qui choisit le prix, c'est le marché qui choisit le prix, sauf dans les cas spéciaux où il y a effectivement quelqu'un qui essaie de spéculer et qui essaie d'influencer négativement ou positivement le marché. Les principales exigences donc de la finance islamique, il y a ce qu'on appelle le principe des 3 P, donc la clé de répartition doit être fixée dans une proportion et non par un bénéfice à la signature du contrat, la tangibilité de l'actif, donc qu'il soit donc tangible et identifiable, c'est le principe de l'asset banking, et puis les secteurs d'investissement illicites, on en a cité quelques-uns, donc l'industrie du tabac, l'industrie de l'alcool et du vin, des spiritueux, l'industrie porcine, etc. Donc les produits bancaires islamiques respectent 4 règles, donc le partage des risques, la matérialité des échanges, l'absence des pénalités de retard de remboursement et le non-financement des transactions interdites par la charia. Les charia abordent dans une banque islamique ou une assurance islamique sans ce qu'on appelle les gardes de l'application correcte et la conformité des produits financiers à la charia. Donc ces conseils de fiqh mu'amalat sont formés de docteurs en religion qui ont tous une compétence avancée en matière bancaire et financière, ce sont des juristes de faire le mu'amalat sur les 4 écoles juridiques. Donc on va donner des exemples peut-être après. Et donc ce sont un peu... Là se pose une question aussi de conformité, de régulation, parce que malheureusement ces comités-là sont payés par la banque. C'est comme si vous dites, c'est le conseil d'administration qui décide un peu. Donc il y a des failles qu'on va voir, et on va voir aussi comment les banques islamiques aujourd'hui essaient de remédier à ces failles un peu entre guillemets de sécurité, de contrôle et de régulation. Donc on a dit qu'il y a présence des 4 écoles, Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanbali, dans ce comité. Les 4 questions que se pose ce comité, qui sont des questions éthiques, comme dans tout ISR, parce que la banque islamique, enfin la finance islamique fait partie de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Les termes de la transaction, donc c'est la première question, les termes de la transaction sont-ils conformes à la charia? Deuxième question, est-ce le meilleur investissement pour le client? Troisième question, l'investissement envisagé produira-t-il de la valeur ajoutée pour le client, pour la communauté et pour la société pour laquelle le client est actif? Et quatrième et dernière question, en tant que gestionnaire de fonds, la banque effectuera-t-elle la transaction de la même manière que si elle le ferait s'il s'agissait de son propre compte? Voilà. Donc évidemment, on va parler du rôle social après de la banque islamique. Ça, c'est un sujet assez emblématique et assez épineux, parce que c'est pas évident de concilier à la fois investissement et acte de solidarité, bien que l'objet essentiel de cette banque islamique, qui est une alternative, c'est de se rendre utile à la communauté et à l'humanité en général. Parce que dans une banque islamique, n'importe qui peut évidemment avoir un compte, donc il n'y a pas de distinction. Donc les quelques contrats que la banque islamique utilise, il y en a beaucoup, hein, je vais me concentrer sur deux ou trois contrats qui sont les plus importants et les plus utilisés dans le secteur aujourd'hui, et qui font partie de ce qu'on appelle l'ingénierie financière. C'est une adaptation à la fois de la jurisprudence classique et de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la finance conventionnelle. Donc il y a le contrat Mudaraba ou Qirat. Donc ce sont les outils de la finance islamique, si vous voulez. Donc Mudaraba ou Qirat, c'est un contrat qui est l'alternative du compte épargne ou du compte d'investissement. Qu'est-ce que c'est que Mudaraba ou Qirat? Étymologiquement, Mudaraba est tiré de Darbo fil Ard, c'est-à-dire le fait de parcourir la terre pour rechercher le bien de Dieu. Ce contrat-là, islamiquement parlant, donc dans l'histoire d'Islam, il a été pratiqué par le prophète Salama avant l'Islam, avec son épouse Khadija, qui avait de l'argent, donc elle était Rabb al-Mal, et lui qui était donc Mudarib, qui partait avec cet argent, en Mésopotamie ou dans autour de la Mecque, etc. Donc il fructifiait ce capital, donc le capital de Khadija, et après il y avait effectivement partage des bénéfices selon des pourcentages, 40-60, 50-50, etc. Donc aujourd'hui dans les banques, il est fait de deux façons différentes, hein. Il y a ce qu'on appelle contrat d'investissement ou contrat d'épargne dans la banque islamique. Donc c'est le contrat par lequel donc Rabb al-Mal apporte l'ensemble des capitaux. Donc parfois Rabb al-Mal, ça peut être la banque, et parfois Rabb al-Mal, ça peut être le particulier. Si c'est la banque, donc la banque aide quelqu'un pour investir dans un projet, donc elle lui donne le capital et lui il fait le travail, et donc après il y a distribution des bénéfices. Si c'est le particulier, il met son argent ou une partie de son argent à disposition de la banque, qui va faire avec des placements licites évidemment, et donc au lieu d'avoir 2% fixe comme dans un contrat d'épargne classique, eh bien vous avez du 60-40 par exemple. Donc c'est beaucoup plus rentable quand ça marche, quand évidemment il y a des bénéfices. C'est pas des intérêts fixes chétifs, c'est vraiment un pourcentage de bénéfices qui est très important et qui est justice, parce que effectivement vous avez fait des placements, vous avez tout à fait le droit, c'est justice pour vous de récupérer les bénéfices. Il y a une contrainte dans ce contrat, c'est que le capital n'est pas garanti. Contrairement au compte d'épargne classique, conventionnel, le capital, Rasmel, n'est pas garanti. C'est-à-dire, si la banque le perd, vous n'avez rien. Sauf s'il y a manquement avéré de sa part. Là, effectivement, vous pouvez évidemment saisir la justice pour rendre votre capital. Mais dans un cas normal, elle n'assure pas le capital. Et ça pose un problème, quand on va le voir, juridique en France, parce qu'en France, le capital doit être obligatoirement garanti par la banque. Sinon, c'est l'État qui prend le relais. Donc ça, c'est le contrat de Mudaraba, de Qirat, en résumé. Hein. Donc c'est حيث انه ثبت في هو من سنن تقريريه للنبي صلى الله عليه وسلم. C'est parce qu'il l'a fait avant l'islam, il l'a pas renié, il l'a pas donc refuté après donc la révélation. Donc dans le rapport du Sénat, donc du 14 mai 2008, la Mudaraba est un modèle semblable à une société en commandite où une partie, le commanditaire Rabb al-Mal apporte les fonds et l'autre Mudari un savoir-faire. Donc en droit français, la Mudaraba permettrait de structurer tout type d'organisme de placement collectif au PCVM, au PCI, FCC, etc. Donc ça, hein, il y a aussi une contrainte qui est que le taux d'endettement de celui qui va faire la transaction soit inférieur à 33, inférieur ou égal à 33%. Deuxième contrat, c'est le murabaha. C'est un contrat assez, c'est un contrat beaucoup plus compliqué parce qu'il a beaucoup de ramifications et beaucoup de contrats qui se greffent sur ce même contrat pour le rendre plus sûr vis-à-vis de l'investisseur et plus rentable et plus attractif. Le murabaha, il faut savoir qu'en islam, il y a deux sortes de contrats dans le bouillon. Musawama ou murabaha. Musawama ou murabaha. Deux grands types de contrats de vente en islam. Musawama, c'est toutes les ventes directes qui se passe évidemment entre particuliers dans un marché, qu'il soit organisé ou non organisé, c'est-à-dire que c'est un marché de l'État ou un marché non conventionnel. C'est Musawama, c'est-à-dire vous avez un produit, vous proposez un prix par rapport au prix initial, donc une marge, et donc vous me dites, voilà, si ça vous convient, donc vous marchandez, etc. Donc c'est Musawama. Murabaha, c'est autre chose. Murabaha, min uqud al-amanat. Murabaha, c'est un contrat assez spécial, parce qu'il impose à celui qui va faire ce contrat murabaha de vous donner le prix initial. De vous donner le prix initial. Et de vous dire, voilà la marge que je fais. C'est important. Donc, en résumé, donc murabaha qui est aujourd'hui l'alternative au prêt immobilier, au mobilier intérêt. Donc, on a dit que le mudaraba, c'est l'alternative au compte d'épargne ou compte d'investissement. Le mudaraba, c'est l'alternative au prêt immobilier ou mobilier, qui est un prêt intérêt, évidemment. Donc le murabaha, cette technique consiste en l'achat par la banque islamique d'un actif qu'elle revend à terme à ses clients avec une marge préétablie. Le remboursement peut s'effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de la conclusion de du contrat et ça doit être spécifié. Il est essentiel dans ce type de contrat que la banque soit propriétaire de l'actif avant de le revendre. La marge doit évidemment être acceptée par les deux parties contractantes. Donc, il y a deux types de contrats dans ce contrat. Il y a un contrat d'achat de la banque de l'actif et un contrat de vente de cet actif vers le particulier qu'il a choisi. Et donc, ça pose le problème de la double imposition en France qui a été réglée en décembre 2008 par une note du ministère de l'économie français pour éviter cette double imposition, pour le rendre un peu plus attractif. Donc, en pratique, la banque islamique dans le contrat de murabaha a tout intérêt aussi à vouloir se protéger du risque client. Parce qu'il y a un risque client, comme dans le prêt immobilier ou mobilier. Donc, elle se protège comment? Elle se protège du risque que le client n'honore pas ses engagements en exigeant RAN, conscient, ou kefala, garantie. Et elle peut proposer à son client aussi des formules de tsakaful, ce qu'on appelle l'assurance islamique solidaire. Donc, trois choses, RAN, kefala, et tsakaful. Donc elle peut greffer à ce contrat trois autres contrats pour le rendre beaucoup plus sûr. Et donc Ibn Rushd, par exemple, dans Bidayat Mushayk, qui est mort en 595 de l'Égypte, qui est un grand savant andalou malikite, qui a fait beaucoup de choses, qui a donné beaucoup de choses pour la philosophie, et évidemment qui est très connu et reconnu dans les sphères, que ce soit de la philosophie ou de la science religieuse, il dit dans sa Bidayat Mushayk wa Nihayat al-Muqtasid, l'ensemble des savants sont sur l'unanimité que les ventes sont de deux catégories, donc on a dit le musawama et le murabaha. Dans le murabaha, le vendeur cite à l'acheteur le prix de l'achat initial de la marchandise et lui conditionne une marge bénéficiaire. Donc je donne un exemple pour bien éclaircir les choses dans le contrat murabaha. Imaginons vous, particulier ou entreprise, vous avez besoin d'un actif, vous avez besoin d'un appartement, d'acheter par exemple un appartement ou d'acheter une voiture. Vous avez deux solutions. Je ne parle pas islamiquement parlant, je parle en général. Vous avez deux solutions. Ou bien effectivement, aller chercher les fonds quelque part, quelqu'un qui va vous donner un crédit, mais alors là, est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner un crédit sans intérêt, c'est pratiquement pas possible. Ou bien aller vers une banque islamique si elle existe, et faire ce qu'on appelle murabaha. Okay, comment ça se passe? Vous dites à la banque islamique, moi voilà, j'ai vu tel bien, il me plaît. Donc la banque islamique va le visiter, va voir effectivement s'il ne comporte pas de vice caché, des choses comme ça, et l'achète. On lui fait une promesse d'achat, et elle achète ce bien en son nom propre. Donc elle prend possession de ce bien. Par exemple, le bien, il est à 100 000 euros aujourd'hui sur le marché, elle l'achète à 100 000 euros. Vous le savez, elle le sait. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous dit, voilà, moi j'ai acheté ce bien à 100 000 euros, maintenant je vous le vends à 120 000 euros, dans 15 ans. C'est-à-dire quoi? Vous allez lui donner vos fiches de paie, etc., comme ça se passe dans une banque classique. Vous allez vous mettre d'accord dans un contrat sur les mensualités à payer, par exemple 1000 euros par mois pendant 15 ans. Donc vous allez, avec ces 1000 euros par mois pendant 15 ans, arriver à 120 000 euros. Donc 100 000 euros, c'est le prix initial, 20 000 euros, c'est la marge que vous avez acceptée, vous et la banque. Donc elle vous vend quelque chose de tangible, elle ne vous vend pas un crédit. Dans la situation actuelle, quand vous allez voir une banque classique, elle vous vend un crédit, elle ne vous vend pas un actif. Elle vous dit, moi je vous vends 100 000 euros à 200 000 euros, par exemple. Je vous vends 100 000 euros que je vous donne maintenant à 200 000 euros que vous allez me donner dans 15 ans. Dans le Mourabaha, non. Dans le Mourabaha, je vous vends un actif, qui est l'appartement ou la voiture, qui a coûté 100 000 euros à la banque. Je vous le vends à 120 000 euros dans 15 ans. Mais c'est cet actif-là, ce n'est pas le crédit. Voilà la nuance qui fait toute la différence entre haram et halal, qui fait toute la différence entre la vente d'un prêt donc avec un intérêt et la vente d'un bien, donc d'un crédit qui est quelque chose de haram avant. Voilà. Donc parmi les sources juridiques de la murabaha, les sources islamiques qu'on peut trouver, elle peut rentrer dans deux catégories, ce qu'on appelle bi' bil ajal bi thamanin akthar min thaman al hal. Donc ça a été cité dans plusieurs références de la jurisprudence islamique, que ce soit hanafite, malikite, shafi'ite ou hanbalite. Et donc le Hajar par exemple, il a cité l'unanimité sur la licéité de cette vente à terme, comme celui qui va vendre sa marchandise maintenant comptant à 100 euros ou à terme à 110 euros par exemple. Le prophète sallam lui-même avait acheté de la nourriture à sa famille et retardé le paiement à une échéance. Et dans la Sunna aussi, la mère des croyants Aïcha raconte que le prophète sallam avait acheté d'Agif des produits alimentaires pour un délai et a laissé comme caution son bouclier, rapporté dans le Bukhari, dans le livre de Rahm. Il a acheté aussi une marchandise d'un juif avec des facilités de paiement. Donc c'est une combinaison de deux choses, les facilités de paiement et le bay' bil ajal. Donc ça c'est ce qu'on appelle murabaha. Donc il y a beaucoup de sources juridiques, je vais passer parce qu'effectivement c'est assez... Et ce contrat murabaha, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'est pas contracté seul, il est contracté avec... Tchakaful, donc avec une assurance entre guillemets qui va couvrir, une assurance islamique qui va essayer de couvrir un certain nombre de risques qui peuvent arriver, comme le risque de perte d'emploi ou le risque de décès, etc. Et qui est aussi greffé avec le kafala, avec une garantie ou un ran, donc une caution. Et tout est spécifié initialement dans le contrat. Et dernier contrat que je vais parcourir sur volet parce qu'il est assez, il est aussi assez compliqué, plus compliqué que le premier. Et donc je vais peut-être passer juste pour le dire. C'est le contrat salam ou istisna. Salam, c'est évidemment un contrat qui est utilisé surtout pour les investisseurs et pour les agriculteurs. C'est l'alternative du financement d'un investisseur. Salam en droit musulman, donc on sait que dans l'islam, on ne peut pas vendre une chose qui n'existe pas encore et qu'on ne possède pas. Ça, c'est interdit en islam. L'exception, c'est le salam. La seule exception, c'est le salam. Ce contrat illicite est valide pour faciliter la vie des gens qui ont grand besoin de ce contrat et aussi en se basant sur le hadith sahih, authentique, celui qui fait salam, qu'il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu, pour un délai connu. Donc, le prophète Salama avait trouvé qu'il y avait une. Comme vous le savez, l'islam a trouvé dans l'Arabie avec plein de traditions, avec plein de choses, etc. Et donc, il a essayé d'éliminer ce qui n'était pas conforme à la justice islamique, à la logique saine. Et il a essayé de renforcer ce qui était évidemment conforme à la logique saine et ce qui était utile aux gens et qui ne contredisait pas les textes. Parmi ces choses-là, c'est le Salam. Donc, il a trouvé que les gens finançaient leurs produits agricoles par un paiement anticipé, il l'a validé. Donc, par exemple, la personne, vous le payez, vous lui dites, moi j'ai besoin de 2 tonnes de blé au mois de juin. On est au mois d'octobre. Donc, vous me donnez cet argent tout de suite. Je vais acheter les grains, je vais les semer. Et au mois de juin, vous venez récupérer de vos 2 tonnes de blé. Donc, il faut que tout soit spécifié initialement dans le contrat. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas ce blé-là que je vais vous vendre. Mais je vous l'ai quand même vendu. C'est ce qu'on appelle salam. C'est comme une espèce de crédit que vous donnez, qu'il vous donne à délai déterminé. Donc le délai doit être déterminé, la catégorie du bien doit être déterminée fixe, et tout doit être donné, l'argent doit être donné au départ, va être donné à la personne qui va faire ce type de contrat au départ. Ça, c'est le salam. Et l'istisna, c'est une forme de salam, mais qui concerne les entrepreneurs, la construction. Vous allez financer une construction qui n'existe pas aujourd'hui, ou un domaine qui n'existe pas aujourd'hui. Donc vous donnez de l'argent au constructeur, vous lui spécifiez ce que vous devez, donc ce que vous devez avoir à la fin, donc le plan. Et donc vous payez, par exemple, vous lui dites, voilà, c'est un appartement à deux pièces avec ceci, cela, etc. Ou c'est un meuble de bureau qui est comme ci, comme ça. Et donc vous spécifiez tout ça dans le contrat, vous le payez. Et au délai déterminé qui est dans le contrat, vous venez récupérer votre bien. Donc ça, c'est en gros le contrat salam. On va y revenir si vous avez des questions, parce qu'il a aussi des conditions, une façon d'application, etc. Donc je m'arrête là. Je m'arrête là, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et effectivement, c'est un vaste océan qui est la finance islamique. Il y a d'autres contrats, donc je me suis un peu limité à ces trois contrats, à savoir Mudarab, Al-Murabaha, Salam. Il y a d'autres contrats comme Ijar al-Oqtina, qui est l'équivalent un peu du crédit bail. Il y a aussi pas mal de contrats qui sont aussi validés aujourd'hui par les banques islamiques utilisées. Mais les contrats les plus utilisés qui constituent aujourd'hui plus de 90% de l'actif des banques islamiques sont ces trois-là, dont 80% se situent autour de la murabaha. Voilà.
Bien sûr, chaque paragraphe qu'il a traité nécessite quand même une conférence à part, voire un colloque. Si ce n'est pas des colloques, le murabaha, le murabaha, le murabaha, tout ça, c'est des sujets très importants qui nécessite beaucoup de détails. Bon, peut-être dans le débat, Inch'Allah, on reviendra sur ces opérations-là. Rapidement, je passe la parole à notre ami Malissibi. Il nous parlera, qui est secrétaire, bien sûr, à l'association Benefiti et analyste financier, bien sûr. Il traitera du sujet du marché de la finance islamique.
Merci à tous d'être venus. Merci à l'Institut Razali de nous avoir permis d'être réunis cet après-midi tous ensemble. Alors, notre frère et cheikh Abdelrahman a très bien évoqué et très bien introduit l'avènement de la crise. Alors, cette crise a été définie par tous les spécialistes par une crise qui a vu son origine dans l'économie mondiale moteur qui sont les États-Unis. Donc, dans ce cadre-là, assez rapidement, on s'est aperçu d'un certain nombre de dérives avec tous les phénomènes qui sont présents dans le cadre de la finance conventionnelle. Aujourd'hui, il est important de rappeler que la finance décorrélée de la sphère réelle a appuyer, accélérer un certain nombre de mécanismes dont la finance islamique tente par son éthique et par ses fondements de contrer. J'ai envie de dire, est-ce vraiment une alternative? Est-ce vraiment la solution pour repenser un modèle qui est bien sûr économique, un modèle basé sur l'éthique musulmane? Donc ça, c'est des choses qu'on essaiera de voir avec vous. J'espère que vous serez assez réactifs lors du débat. Moi, très rapidement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la finance et l'utilisation de la finance, notamment des marchés financiers, nous permettait, lors de son introduction, de lever assez rapidement des fonds. C'était un outil assez puissant pour pouvoir permettre à des entrepreneurs qui ont été appuyés par toutes les théories économiques, notamment de faire du business et de développer l'économie. On s'est rendu compte, à cause d'un certain nombre de dérives, que la finance dépassait quelque part son rôle, qui était de financer l'économie réelle. Donc il est important de rappeler un certain nombre de principes. Tarek l'a très bien rappelé, et Cheikh Abdelrahman aussi, qui nous permettent de trouver des solutions et de réfléchir à une alternative. Or, très rapidement, en ce qui concerne la finance islamique et ce qu'on peut appeler le marché de la finance islamique, alors les chiffres, il faut savoir que les chiffres vont bon train aujourd'hui. Toutes les estimations sont les plus grosses estimations, pardon, ont été prononcées par les spécialistes. Alors aujourd'hui, il faut savoir que ce marché potentiel mondial est estimé à peu près entre 800 et 1000 milliards de dollars, pardon, avec la crise qui a eu un impact, bien sûr, sur la sphère réelle. On a tendance à sous-évaluer justement cette estimation, bien sûr, parce que aujourd'hui, bien beau celui qui me dirait que la finance islamique n'a pas du tout été impactée par et n'est pas du tout impactée par la crise mondiale que l'on subit actuellement, de fait, juste par la dévaluation des actifs immobiliers, qui est un des exemples et une des répercussions directes, j'ai envie de dire, sur l'activité financière islamique. Donc aujourd'hui, il faut savoir que cette activité bancaire islamique et d'intermédiation financière islamique, comme je disais, était évaluée en termes d'actifs à 800 milliards de dollars. Donc en termes très rapides, pour vous donner une petite fiche signalétique, les banques du Golfe ont développé ça depuis très longtemps. Deux expériences avaient été faites à l'époque. Donc il faut savoir que, enfin, tout en restant dans l'époque contemporaine, parce que Tariq l'a très bien rappelé, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des pratiques de finance islamique étaient à l'œuvre. Et tu évoquais le contrat Mudaraba, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui peut se mettre en place aujourd'hui dans des sociétés occidentales, des sociétés musulmanes industrialisées. Et quelque part, c'est quand même un retour et un retour vers la vérité, parce que dès l'avènement de l'islam, on s'est aperçu que et on s'aperçoit aujourd'hui que un modèle datant de plus d'un 15 siècles peut être une solution aujourd'hui. Donc en termes d'organisation aujourd'hui et de marché de la finance islamique, un certain nombre de banques occidentales, notamment, ont vu apparaître une opportunité. Et donc, quelque part, je n'ai pas envie de dire qu'elles se sont positionnées, mais ont su prendre à bras-le-corps cette opportunité et développer des produits dits Sharia compliant. Donc, on parle de la banque Barclays, notamment, de la banque HSBC, de Deutsche Bank, qui sont des banques qu'on peut appeler universelles, c'est-à-dire qui développent un certain nombre de produits bancaires assez variés, divers et variés, et qui ne se contentent pas aux banques d'affaires. On peut évoquer les banques d'affaires américaines, notamment. Donc l'historique, oui, très rapidement, l'historique, on peut être amené à résumer ça très simplement. C'est dans l'ère contemporaine, j'ai noté deux expériences très intéressantes. La première, dans les années 60, en Égypte, le Mitraam, en Égypte, qui a mis en place un projet de microfinance. Donc le but, c'était quand même, d'une manière désintermédiée, parce que la banque n'était pas présente dans cette volonté d'aider les gens de la population à développer des projets, notamment d'infrastructures, des projets nobles. Donc on est toujours dans une espèce de désintermédiation, parce qu'aujourd'hui, enfin, même à l'époque, les solutions n'étaient pas forcément trouvées par les banques, mais par des gens comme vous et moi, qui avaient très peu de moyens et qui ont décidé de s'organiser autour d'associations, qui ont décidé de s'organiser autour de petites structures pour trouver des solutions alternatives au financement bancaire. En Malaisie, les autorités, notamment publiques, ont mis en place aussi un programme et un fonds dans les années en 1953, donc ça date quand même pas mal, un fonds permettant de collecter de l'argent via des petits épargnants pour mettre en place encore une fois des projets d'infrastructure dans le nord du pays. Donc tout ça, c'est des choses qui ont existé, qui rentrent dans le cadre d'une finance islamique entre guillemets, et qui sont des exemples pour nous, pour la simple et bonne raison qu'elles ont été dans un premier temps une réussite et d'une manière générale une initiative privée indépendante des banques. Voilà. Donc la croissance de ce marché-là actuel est, on va dire, une croissance qu'on peut évoquer à deux chiffres, tu l'as très bien dit. On évoque une croissance entre 10 à 30%, c'est des chiffres qu'il faut réagir, j'imagine. On peut se demander comment se fait-il qu'une activité aussi génératrice, on va dire, de richesses, aussi créatrice de richesses, n'est pas ancrée dans des sociétés notamment industrialisées, telles que la France. Donc ça, c'est un débat qui j'espère, vous fera, qui alimentera votre réflexion. Des pays comme l'Iran, le Pakistan, le Soudan, notamment, ont carrément islamisé leur système financier. L'Europe avance à petits pas sur ce sujet. Il y a eu des initiatives encore qu'on peut signaler aujourd'hui, telles que l'émission d'une obligation islamique en Allemagne via le Land de Saxe. Il faut savoir que l'Allemagne est organisée autour de Land, donc de petites agglomérations, on va dire, financées et organisées autour d'une banque qui serait l'équivalent d'un conseil général. Donc c'est ce qui dope notamment l'économie allemande aujourd'hui. Donc ça, c'est une initiative qui a eu lieu en Allemagne. Je sais que le Japon et des pays comme le Royaume-Uni sont très intéressés par l'éventualité de mettre en place un certain nombre de produits et notamment d'émettre des émissions obligataires islamiques. Le nom de Sukuk, je pense que c'est quelque chose qui vous parle et qui a été très bien développé, très bien. Il y a une très bonne communication, on va dire, notamment dans la presse. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés et comprennent beaucoup plus le concept aujourd'hui de soukouk. On parle même aujourd'hui, si vous voulez, d'alternatives et de moteurs pour l'économie française. C'est dire, c'est qu'aujourd'hui, des produits tels que les soukouk peuvent permettre à des nations comme la France de redynamiser une économie en panne. Donc c'est des choses qui forcément nous marquent, nous en tant que musulmans déjà, et en tant que personnes soucieuses, de cette alternative et de cette économie mondiale qui a la dérive. Donc voilà en termes de marché, ce qu'on peut dire aujourd'hui pour représenter la finance islamique, avec quelque part une fragmentation, parce que il est important de dire que différentes initiatives dans différents pays sont mises en place. Mais on n'a pas une certaine homogénéité, notamment de l'activité, notamment bancaire, qu'on pourrait citer à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, quel marché pour la finance islamique ? Il faut savoir une chose, c'est que nous Français, nous sommes musulmans français notamment, nous sommes la communauté la plus importante d'Europe. Donc à la question, quel marché pour la finance islamique, c'est une question que je vous pose. Quel marché pour la finance islamique en France notamment, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on a deux phénomènes. On a un phénomène tout d'abord qui nous dit la chose suivante. La demande crée l'offre. Et on a le second phénomène qui est l'offre crée la demande. Je pense qu'en tant qu'acteur et en tant que consommateur éventuel, potentiel, l'important pour nous de développer une demande pour que l'offre puisse s'adapter et puisse répondre à tous les besoins des musulmans notamment et des non-musulmans. ce que j'évoque aussi assez souvent, c'est qu'un certain nombre de personnes non musulmanes sont soucieuses des problématiques, c'est-à-dire qui sont liées à l'économie, à la finance et en termes de solutions d'investissement, et sont très intéressés, ils seraient très intéressés à l'éventualité de développer des produits dits charia compliant. Donc voilà. Donc dans son ensemble, la population française reste une population qui reste intéressée notamment à des produits alternatifs basés sur une éthique, parce que quelque part, la finance islamique, c'est une éthique. C'est une éthique économique et financière, basée sur une éthique musulmane notamment. Les principes ont très nettement été développés, donc je n'y reviendrai pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir que déjà certains produits et certaines structures basées sur une éthique, entre guillemets, existent et permettent à des investisseurs soucieux d'une certaine éthique de répondre à leurs envies et à leurs solutions d'investissement. Tu évoquais l'investissement socialement responsable. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà. Je pense que la finance islamique a, on va dire, une porte d'entrée via cette dimension. Prendre la question éthique musulmane dans son ensemble est quelque chose d'essentiel, et c'est quelque part quelque chose qui va forger le dynamisme de cette finance. Sans éthique, on n'avancera plus, avec une certaine dérive, parce que quelque part, la finance islamique se veut une finance éthique, je le rappelle. Donc ça, c'est important de le signaler. Et donc voilà, donc en termes d'offres, j'évoquais tout à l'heure, ça va être difficile, on va dire, de la définir assez très clairement, étant donné que c'est une offre qui, en fonction des pays, est très diverse. Je pense que, en tant que particulier, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'État, chacun y trouvera son compte. Je pense que l'avènement et l'arrivée de banques islamiques sur le territoire français, c'est quelque chose que vous avez entendu, j'imagine. Donc il serait intéressant d'étudier très sérieusement la question. On parle souvent de l'arrivée de banques de détail pour trouver, apporter des solutions, une offre à une clientèle soucieuse religieusement et éthiquement parlant. Je ne pense pas que ce soit d'actualité, on peut toujours en discuter, mais aujourd'hui, le socle, on va dire, de la finance islamique passera forcément par sa réussite, et sa réussite rapide, je pense, se fera via l'émergence de banques, notamment d'investissement, qui mettront en place des structures de financement pour pouvoir dynamiser quelque part et redonner un souffle à cette économie française. Alors, plein de questions se posent aujourd'hui. Effectivement, quand on parle de marché de la finance islamique, on peut avoir une approche marketing qui est de dire à quoi représente comme la population musulmane et la clientèle, entre guillemets, musulmane, à quoi ressemble-t-elle, d'où vient-elle, quels sont ses besoins. Donc ça, c'est une approche plutôt marketing que peuvent avoir les banques, notamment. Et je pense que nous, en tant que clients et en tant que musulmans, on a un devoir d'ijtihad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le devoir de faire un effort, de se renseigner, de sensibiliser, d'apprendre, d'avoir du savoir et de le transmettre. Donc c'est ce qu'on fait, Inch'Allah. Et quelque part, on sera tous plus ou moins renseigner pour accueillir éventuellement cette finance islamique qui arrive à grands pas sur le territoire français. Plein d'initiatives ont été mises en place et des signes forts tels que les discours de Madame Lagarde sur la question prouvent à quel point les autorités françaises et la France d'une manière générale s'intéressent au sujet. Donc je dirais tout simplement en termes très concret, notre rôle, vous tous notamment, sera d'apprendre de plus en plus, de comprendre de plus en plus comment fonctionne cette finance et quelque part d'être les premiers garde-fous des dérives éventuelles. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors du débat. La question des charia boards que tu as évoquée est très intéressante. parce que c'est quand même le socle qui va permettre un bon fonctionnement de cette pratique, une pratique financière notamment. Donc cette question-là, je pense, sera évoquée. Quel charia board pour la France, quelle organisation autour de ces banques et quel impact pour la population et pour la clientèle française notamment. Donc ça, c'est des choses qu'on j'espère qu'on évoquera. Alors très rapidement, je voulais mettre en évidence l'apparition justement de ces banques-là et mettre en avant le fait que certaines des initiatives qui ont été mises en place dans les pays et dans le monde notamment, se sont faites d'une manière désintermédiée et se sont faites d'une manière liée à une approche privée et, comme je disais, indépendante des banques. On a un certain nombre aujourd'hui de pratiques qui se mettent en place et qui sont là depuis un certain temps, et qui respectent l'éthique musulmane, qui n'ont pas l'appellation financement islamique ou entre guillemets investissement islamique, mais qui respectent cette éthique musulmane, ce socle lié à la base de l'économie notamment musulmane, et qui marche très bien. Donc aujourd'hui, l'attente de la banque est une chose. Je pense que vous avez tous les moyens aujourd'hui d'avoir des idées, de proposer des idées, et éventuellement de mettre en place des structures qui vont nous permettre d'avancer via la solidarité, via l'entraide et via la volonté de respecter l'éthique musulmane notamment. Donc très rapidement, je pense que la finance islamique a de très beaux jours devant elle, notamment sur le territoire français, et je pense qu'on a tous une responsabilité à être les garde-fous des dérives éventuelles, notamment qui peuvent arriver sur notre territoire. Et donc, je laisserai les spécialistes, notamment, nous parler de leur intérêt à cette finance et l'apparition de cette finance sur le sol français.
Barakallahu fik, mon frère et notre ami Mali Sibi. De toute façon, sachez-le bien qu'on ne fera pas de cadeau à ces banques, qu'elles soient des banques islamiques, surtout qui se disent islamiques. L'autocritique sera faite déjà par les musulmans, espérant que des musulmans compétents feront une très bonne autocritique et des très bonnes analyses avant que d'autres ne viennent nous critiquer et critiquer ces banques-là. Rapidement, quand je passe la parole à notre sœur Christelle Bondier, hein, c'est pas vous qui passez avant. Bon, on passera la parole à notre ami Mohamed Fawzi Cheraki, qui nous a honoré par sa présence. Donc il traitera du sujet du cadre juridique des banques islamiques en France. Ensuite, on donnera la parole à notre sœur Christelle Bondier.
Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Alors, il s'agit aujourd'hui de mettre en exergue quelques aspects juridiques de la finance. Alors, premier, si vous voulez, l'émergence ou la prise d'intérêt, voire l'explosion que connaît aujourd'hui la finance islamique, peut-être considérée comme une affirmation d'un triangle très clair formé par l'économie, le droit et la religion. Quand on parle beaucoup plus de la finance islamique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des liquidités, c'est qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Ça confirme une certaine approche économique, c'est-à-dire le processus d'adaptation du droit par rapport à l'essor de l'économie. Alors, premier point, c'est de commencer par une petite définition pour contourner en fait la notion de finance islamique. Ce qu'on entend par la notion et essayer de voir les institutions ou les notions voisines. Finance islamique signifie-t-elle ce qu'on entend beaucoup parler en parlant de la charia ou des banques islamiques? Alors, trois notions qui sont relativement distinctes. Finance islamique ne veut pas dire charia, ne veut pas dire non plus banque islamique. Premier point, la charia, qui est une notion beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. la doctrine retient une définition plus intéressante dans la mesure où elle entend la charia comme, si vous voulez, l'équivalent de la constitution dans une société de type occidental. La charia, c'est... Et la charia est aux musulmans dans une société musulmane ce que la constitution est aux citoyens dans un pays occidental. Bien plus qu'un système de droits, une forme de valeurs, de normes qui conditionnent la conduite et le comportement des croyants et l'ordre socio-juridique de la communauté. Deuxième notion qui est aussi intéressante, c'est la notion de peut-être considéré comme un compartiment au sein de la charia. La charia est donc des aspects qui sont d'ordre culturel et d'autres aspects qui sont d'ordre patrimonial, à savoir faire. C'est dans ce cadre de faire qu'on parle de la finance islamique. C'est-à-dire dans un compartiment qui est moins marqué par l'aspect religieux de la charia. Troisième notion voisine de la finance islamique, ce sont les banques islamiques. C'est là qu'on peut voir une différence entre finance islamique et banque islamique. Il y a des pays où il y a de la finance islamique, mais il n'y a pas de banque islamique. Les banques islamiques, pour retenir quelques définitions, la première est donnée au Congrès international des banques islamiques en 1979. La banque islamique est une institution bancaire qui collecte des fonds et les utilise sur la base de la charia islamique, dans le but de fonder une société solidaire et de réaliser une certaine justice dans la répartition des richesses. Deuxième définition, qui est beaucoup plus juridique, en tout cas elle résulte de la loi 575 du 11 février 2004, loi qui porte en création des banques islamiques au Liban, sont considérées comme banques islamiques les banques dont les statuts comportent l'obligation de ne pas contrevenir aux préceptes de la loi islamique, à savoir la charia, notamment l'interdiction de percevoir ou de verser des intérêts. Alors, il y a aussi plusieurs définitions des banques islamiques. En tout cas, ce qu'on peut retenir des définitions, que ce soit des définitions doctrinales ou des définitions beaucoup plus juridiques, sont l'interdiction de verser des intérêts. Deuxième point, application de la charia. Troisième point, c'est l'aspect éthique de la finance islamique, à savoir, si vous voulez, l'actif de financement qui doit respecter l'éthique musulmane, c'est-à-dire qu'on ne doit pas financer des activités qui sont illicites, qui ne sont pas compatibles avec la charia islamique. Deuxième point, après cette brève définition des notions en la matière, y a-t-il de points, on va dire, de principes ou de dénominateurs communs entre la charia et le droit français? Alors, pour répondre à cette question, c'est bien, il faut faire la différence. On parle de quoi? On parle de la finance islamique et on ne parle pas de la charia. Parce que si on parle de la charia, on va englober d'autres aspects qui sont relativement moins compatibles avec le droit français. Quand on parle de la finance islamique, on parle de fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-mu'amalat, ça veut dire toute la jurisprudence commerciale et financière qui a trait aux aspects des droits des contrats ou de sûreté. C'est un aspect, si vous voulez, qui est marqué par le illicite, tout ce qui n'est pas interdit. C'est un principe fondateur, je pense, Tariq peut l'approfondir un peu davantage. Le principe fondamental en matière de fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire qu'en principe, tout est illicite, sauf ce qui est interdit expressément par la loi. Alors sur ce principe, on peut chercher un corollaire en droit français, notamment le principe de la liberté contractuelle, un principe majeur, un principe cardinal du droit français, notamment il résulte
et l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions tiennent loi de ceux qui les ont faites. C'est-à-dire que le contrat est la loi des contractants. Le contrat est la chair et âme des contractants. À partir du moment où on a deux personnes qui se mettent d'accord sur un point donné, sur un contrat donné, sur les clauses que comporte ce contrat, abstraction faite que ce contrat englobe ou s'adapte à des principes religieux, c'est de la pure application du droit français. Donc ça ne pose aucun problème. Et je reviendrai sur cette question dans la mesure où on va parler de la loi applicable. Alors, premier point, principe de la liberté contractuelle, qui correspond à un autre principe majeur qui est illicite, tout ce qui n'est pas interdit par un texte exprès. Alors, il y en a d'autres. Il y en a d'autres principes qui ont été déjà développés par le président de la commission Europlace, la commission finance islamique d'Europlace, où il a tracé les principes de la finance islamique et il a cherché leur corollaire en droit français, à savoir l'interdiction du riba. C'est son corollaire. On va parler de l'interdiction de l'usure, parce qu'en droit français, l'intérêt est licite. Enfin, pas qu'en France, mais peut-être dans plusieurs pays musulmans. Deuxième point, l'interdiction du rab. On peut trouver d'autres éléments en droit français, à savoir l'interdiction, enfin, au moins l'encadrement plutôt des jeux. Il y en a plusieurs en fait. Il n'est pas tout à fait. Enfin, qu'on trouve plusieurs dénominateurs communs en matière de faire le mu'amal. Dans d'autres matières, dans d'autres aspects, à savoir en matière successorale, en matière d'héritage, en matière de preuve. Bien le témoignage donné par les femmes, ça, on peut relever une certaine incompatibilité entre la charia et le droit français. Mais sur ce point, qui est la finance islamique, en général, il y a beaucoup plus de, on va dire, de dénominateurs communs ou de principes communs que d'incompatibilité. Alors, je vais essayer d'aborder deux points essentiels. La première partie va porter sur les aspects institutionnels d'introduction de la finance islamique en France. La deuxième partie sera consacrée aux aspects, on va dire, plutôt contractuels. La partie institutionnelle, elle porte sur les points fondamentaux du droit français. C'est-à-dire que le premier point, à savoir, on parle d'une banque islamique ou d'une éventuelle introduction d'une banque islamique en France, la première question se pose, question de la laïcité. Est-ce on est dans un pays laïque, peut-être le pays le plus laïcisé en Europe. La laïcité, elle trouve son fondement aussi bien dans la Constitution française que dans la loi de 1905. La laïcité constitue-t-elle un obstacle majeur à l'introduction ou à l'autorisation d'une banque islamique en France? Et là, pour répondre à cette question, il faut se fier en fait à une approche juridique de la laïcité, et non pas à une approche journalistique, à une approche politique, à une approche d'extrême droite ou d'extrême gauche, une approche juridique telle qu'elle résulte des lois de la République et telle qu'elle est appliquée par les tribunaux qui sont chargés d'appliquer la loi de la laïcité, à savoir les tribunaux administratifs ou le Conseil d'État en l'occurrence. Alors la laïcité, est-ce qu'elle peut entraver ou est-ce qu'elle peut constituer un handicap à une éventuelle introduction d'une banque islamique? Qu'est-ce qu'on entend par la laïcité? Est-ce que la laïcité signifie anti-religion? Est-ce que la laïcité signifie rejet de tout ce qui a trait à tout ce qui touche à l'islam en l'occurrence, ou tout ce qui est... Alors la réponse est simple, la laïcité doit être entendue dans un sens de neutralité religieuse. La laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État par rapport à toutes les religions. La laïcité, il faut voir aussi son domaine d'application. Elle porte sur quoi? Elle s'applique sur quelle matière? La laïcité est une notion attachée à l'espace public, au service public. Alors quand on parle de la banque islamique, n'oublions pas que la banque islamique, c'est une banque. Avant qu'elle soit islamique, elle est d'abord banque. Et les banques, c'est-à-dire qu'elle est une entreprise. C'est une personne morale, c'est un être juridique et c'est un sujet de droit. La laïcité, tout simplement, ne lui est pas applicable. La laïcité ne la concerne pas, tout simplement. Il s'agit d'une entreprise privée qui, certes, elle est islamique, mais qui est animée par un esprit de profitabilité, par un esprit de bénéfice, de profit. Certes, elle respecte une certaine éthique, mais dans la mesure où elle respecte les lois de la République, il n'y a aucun problème ou aucun handicap, ou même pas de questions à se poser. Parce que enfin, aujourd'hui, on a cette habitude, en tout cas sur des forums de discussion, ou bien avec n'importe quel. On parle toujours, dès qu'on parle de la banque islamique, on nous répond, on est dans un pays laïque. C'est tout simplement un faux débat. Deuxième point qui est aussi fondamental, c'est la question de la loi applicable. Alors, il y aura demain ou après-demain une banque islamique en France. Est-ce qu'on appliquera la charia? Est-ce que ces banques islamiques vont appliquer les lois du Coran? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au nom du principe de la liberté contractuelle, un montage juridique soumis au droit français peut être conforme à la charia. Et en France, on n'applique pas la charia, on applique le droit français. Mais ce droit français, dans sa structure, dans son montage, il peut être conforme à la charia. Et dans un contrat de financement islamique, il n'est pas obligatoire qu'il soit soumis à l'application de la charia pour qu'il soit conforme au principe du Coran. C'est-à-dire, un contrat, il peut être soumis au droit français et en même temps conforme aux règles de la charia sous, on va dire, la caution ou les charia en fait, qui doivent statuer sur son éventuelle conformité avec la charia. Alors, sur ce point de loi applicable en France, il n'y a pas encore de contentieux, on n'a pas encore aucune décision, aucun arrêt, que ce soit des tribunaux ou de la Cour de cassation. Néanmoins, en Angleterre, il y en a plusieurs arrêts qui ont confirmé l'idée que un contrat conforme à la charia reste soumis à un droit national. En Angleterre, c'est le droit anglais. Si par exemple demain ou après-demain, il y aurait une banque islamique, ça va être le droit français. Mais l'intérêt de la question est le suivant. Vous avez une personne, madame, j'en sais rien, elle s'appelle comment, elle signe son contrat de Mourabaha avec une banque islamique, par exemple. Et quand elle regarde ce contrat, par exemple, un contrat de Mourabaha, tout à l'heure, Tarek, il a parlé de la question du calcul de la marge de manœuvre. La marge bénéficiaire pour la banque islamique. Alors, comment on calcule cette marge de bénéfice pour la banque? Tout à l'heure, il a cité un exemple, 100 000 euros en bon à 120. Mais comment on calcule les 20? Pourquoi c'est pas 10? Pourquoi c'est pas 15? Pourquoi c'est pas 25? Quelle est la référence de calcul de cette marge de profit, non pas d'intérêt? Alors, dans un contrat de financement islamique, en l'occurrence un contrat de Mourabaha, j'avais déjà consulté quelques contrats de Mourabaha. Cette marge, elle est calculée de la même façon que le taux d'intérêt. C'est marqué dans l'ensemble des contrats de Mourabaha. Alors, est-ce qu'une partie peut prendre son contrat et vous dire, voilà, moi j'ai signé un contrat conforme à la charia, alors que je regarde que vous avez calculé votre marge de bénéfice au même titre ou de la même manière qu'un contrat qui est, on va dire, non islamique ou en tout cas conventionnel ou traditionnel? Eh bien, ça c'est l'intérêt de la question. La réponse, c'est que vous signez votre contrat, il est conforme à la charia. Sa conformité à la charia, ce n'est pas du ressort ou de l'office du juge. Le juge, il ne contrôle que l'application des droits français, et l'application du droit français, il n'y aura aucun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas remettre en question la validité de ce contrat au motif que cette marge a été calculée de la même façon ou de la même manière que ce qui se passe dans les banques commerciales ou conventionnelles. Ça, c'est la réponse de principe. Il y a une certaine nuance, en matière internationale. En matière internationale, il y a le principe de la liberté contractuelle. La liberté contractuelle qui porte sur la loi applicable. C'est-à-dire que dans un contrat international, on peut prévoir, s'entendre sur l'application de la loi belge, de la loi anglaise, du droit français, du droit de certains pays, de ce qu'on appelle les paradis fiscaux, est-ce qu'on peut prévoir l'application de la charia comme loi applicable dans un contrat international? Eh bien, théoriquement, c'est possible, notamment parce qu'en matière internationale, on applique une loi. Mais on ne dit pas qu'on applique une loi nationale, une loi d'un certain pays. Une loi, la question qui peut se poser, est-ce que la charia est une loi? Est-ce que la charia est un droit au sens occidental du terme? Théoriquement, c'est possible. Après, le règlement Rome 1, qui considère dans son considérant 13, que les partis peuvent choisir n'importe quelle loi au droit. On a parlé de la lex mercatoria, les principes et usages développés en matière internationale. Et beaucoup de juristes, ils font maintenant tout un travail de comparaison entre la charia et la lex mercatoria. La lex mercatoria, elle ne dépend d'aucun ordre juridique donné. Ce sont l'ensemble des usages, des coutumes développés en matière internationale. Est-ce que la charia peut être aussi considérée comme, en tout cas sur un plan théorique, je pense que c'est possible qu'on applique la charia ou qu'on prévoit l'application de la charia comme droit applicable dans un contrat de financement, mais pratiquement, en tout cas jusqu'à cet instant, il n'y a rien. Je n'ai jamais vu de contrat où on a prévu l'application de la charia. Alors, sur la deuxième partie, ça va être beaucoup plus rapide, c'est la finance islamique comme un élément d'attractivité du droit français. C'est-à-dire que la finance islamique peut être considérée comme une preuve de, si vous voulez, comme un facteur d'attractivité de notre droit, et non pas comme un système juridique totalement incompatible avec le droit français. C'est-à-dire que le droit français, il a intérêt à s'inspirer de la finance islamique. Cette dernière peut lui assurer une certaine adaptabilité, par rapport à l'innovation financière, par rapport à la concurrence qu'exercent les autres systèmes juridiques. C'est-à-dire que le droit français, pendant des siècles et des siècles, a influencé, a toujours constitué une attractivité pour des pays où la France avait exercé et la souveraineté, le protectorat et le mandat, j'en sais rien. Ces pays-là, avec leur système, ou bien où il y avait la loi applicable, c'était toujours en principe la charia, eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, la charia, quant à elle, peut être considérée, ou bien, en tout cas, au moins la finance islamique, peut être considérée comme un élément d'adaptabilité, au point que dans notre système juridique, notre code civil ou code commercial, on s'inspire et on adapte le système à la finance islamique. Et c'est dans ce cadre qu'a été créée une commission finance islamique au sein de Paris Europe. Là, cette dernière, elle est chargée de faire une étude approfondie de la finance islamique et voir les éléments de compatibilité ou d'incompatibilité entre les deux systèmes. Cette dernière, elle a adopté dans son rapport, je pense, du 3 février 2009, plusieurs, on va dire, réformes, plusieurs modèles ou modes de réforme des droits français pour le rendre beaucoup plus adaptable et beaucoup plus charia compatible. Il y avait un point tout à l'heure, je pense que Tariq, il a parlé de la question du partage des profits et pertes. Il a évoqué la question des banques ou bien du compte d'investissement, c'est-à-dire que vous partagez et les profits et les pertes, ça dépend en fait de l'essor de l'opération. Quelle est l'incompatibilité avec ce principe? Enfin, si vous voulez, la compatibilité de ce principe avec le droit français. Tout d'abord, le partage des profits et pertes, ce n'est pas une notion totalement inconnue du droit français. C'est même une notion qui a été développée depuis 1804, depuis l'adoption du Code civil. Le principe de partage des profits et pertes n'est que la définition des contrats de société en droit français. Qu'est-ce qu'on entend par la société au sens de l'article 1844-1? La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs services pour partager et les bénéfices ou les pertes, les économies qui pourront en résulter. Donc, partage des profits pertes sur un plan théorique trouve son corollaire et son fondement en droit français. Néanmoins, sur la question de la compatibilité entre le dépôt, c'est-à-dire que vous déposez une somme d'argent et que vous n'avez pas l'assurance, que vous n'êtes pas garanti au moins un taux d'intérêt équivalent ou égal à zéro, ce qu'ils ont fait en Angleterre, c'est un système optionnel. C'est-à-dire qu'en France, la garantie de dépôt, elle est de droit, c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas, d'un commun accord via la banque, elles ne peuvent pas stipuler une clause pour se décharger de cette obligation de droit. En Angleterre, ils ont imaginé un système optionnel. C'est-à-dire que le principe de droit, c'est la garantie. Néanmoins, si le client veut renoncer à ce principe de 3P, partage des profits et pertes, il peut cocher une case en quoi il renonce à cette garantie. Et j'ai dit ce que j'avais à dire.
C'est bon ? Oui. Merci, notre ami. Merci rapidement, je passe la parole à notre sœur Christelle Boyer pour nous parler de la microcrédit, la finance islamique. Merci.
Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je vais essayer d'élargir un peu le sujet de la finance islamique à des institutions qui ne sont pas des institutions bancaires. Genre, là, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de banques islamiques. Moi, j'ai envie de vous parler de microfinance islamique et d'institutions de microfinance qui peuvent fournir des services de financement islamique. Donc, dans un premier temps, je vais un peu vous définir ce qu'est la microfinance, et puis ensuite on va voir comment ça peut être compatible à un système financier islamique, et ensuite on verra des applications concrètes. Donc la microfinance, c'est en fait un système qui permet d'apporter des solutions de crédit, d'épargne et d'assurance à des personnes qui sont exclues du système bancaire traditionnel. En fait, ça touche particulièrement ces personnes-là. Ce sont des produits qui ont été créés parce que les banques finalement ne remplissent pas leur rôle de financement, que toutes les personnes n'ont pas accès au mode de financement traditionnel. Donc il y a ces alternatives qui se sont créées dans les années 1970. Et donc en fait, la microfinance, elle pose un postulat qui est de dire que les personnes vont pouvoir sortir de la pauvreté par l'accès à un financement. Ce financement, en fait, va leur permettre de créer une activité qui va leur dégager des revenus, qui va leur permettre de survivre et de rembourser leur crédit. La microfinance, elle a voulu différencier son activité en vraiment se positionnant différemment de l'activité bancaire, en fait. Le banquier, il est dans son office, il va attendre que le client vienne, alors que la microfinance, les instituts de microfinance, elles vont aller sur le terrain, elles sont présentes vraiment sur le terrain, c'est très décentralisé, et elles vont aller voir les gens, leur demander leur projet, comment elles peuvent les aider, et quelles sources de financement, de combien ils auraient besoin. Donc, et puis un élément aussi clé du système qui est propre à la réussite, en fait, c'est que la microfinance, elle va accompagner les bénéficiaires pendant et après leur accès au financement, donc pour leur offrir une pérennité maximale. Donc un petit peu d'historique, si en fait, pour la microfinance, si vous devez revenir un nom, c'est celui de Mohamed Younous. Il n'a pas créé le microcrédit, mais il l'a généralisé, donc au Bangladesh, dans les années 70. C'est lui qui a créé une institution qui s'appelle la Grameen Bank, aujourd'hui qui est devenue une banque, et qui justement a voulu donner cet esprit à la microfinance, dans cet esprit de proximité. Donc au vu du succès de la microfinance, elle s'est rapidement développée d'abord dans les pays en voie de développement et ensuite dans les pays développés. C'est aussi une spécificité de la microfinance, c'est que d'abord elle a été créée dans les pays en voie de développement, et c'est un système qui est flexible et qui répond à des besoins qui touchent également les pays développés. Donc grâce à cette flexibilité, elle a pu s'adapter aux pays développés, aux pays donc, comme la France ou en Europe. Et donc pourquoi elle a pu s'adapter ? Pourquoi la plus adaptée en Europe? C'est parce que le tissu européen est majoritairement composé de micro-entreprises, en fait, donc, qui ont besoin de crédits plus faibles que des multinationales. Ensuite, donc, en 89, il y a la création de l'ADI, qui est l'Agence de développement et l'initiative d'entreprise, qui donc, est la première association en France. Puis ensuite, est venue Planète Finance, qui regroupe en fait plusieurs activités, donc des activités de rating. Elle récolte des fonds pour financer des microfinances, et puis elle récolte aussi des porteurs de projets pour également pouvoir les financer. Ensuite, on a la création du Réseau européen de la microfinance en 2003. C'est une association en fait qui a pour but de promouvoir la microfinance en Europe. Et donc, face à l'intérêt et au succès de cette pratique, l'année 2005 fut déclarée comme l'année du microcrédit. Et en 2006, Mohamed Younous a reçu le prix Nobel de la paix. Voilà pour l'historique. Donc, quelques produits qui sont liés à la microfinance, on a donc les microcrédits. Comme je vous le disais, ce sont des prêts de faible montant sur des courtes durées qui vont permettre de financer des projets générant des revenus générant des revenus suffisants pour pouvoir vivre et rembourser les crédits. On a également donc, lié, en fait, également ces manques de produits offerts aux personnes démunies. Donc, on a de la microassurance qui, elle, va proposer des produits d'assurance sur certains périls, en fait, qui concernent les personnes démunies, auxquelles les personnes qui ont accès aux services traditionnels d'assurance n'assurent pas, en fait. On a de la micro-épargne également, c'est des dépôts, des petits dépôts de sommes d'argent. Et puis on a aussi des transferts d'argent, donc ce sont des pratiques qui permettent la circulation de la monnaie, qui sont très utilisées dans les pays en voie de développement, surtout dans les transferts nord-sud. Donc, on a donc quelques chiffres clés quand même. Donc 80% de la population mondiale aujourd'hui n'a pas accès aux services financiers traditionnels. Donc c'est ce qui a été vraiment le levier de développement de la microfinance. Aujourd'hui, on a quand même 66,6 millions de clients de microfinance qui font partie des habitants les plus pauvres de la planète, en fait ceux qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Et on a un secteur en fait, de croissance qui est près de 30%. La croissance annuelle est près de l'ordre de 30%. Donc, voici un topo bref de la microfinance. Et pourquoi en fait, on peut aujourd'hui adapter la microfinance à la finance islamique? C'est que derrière, on a un socle de valeurs communes. En fait, la microfinance, elle essaie de créer plus de justice sociale, plus de solidarité, de l'équité. Elle vise à financer des projets concrets qui sont générateurs d'activités. C'est vraiment un acte de solidarité qui va permettre un développement durable. En fait, les personnes vont d'une part sortir de la pauvreté, sortir leur famille de la pauvreté, avoir un accès à la santé, un accès à la nutrition. Donc, c'est vraiment du développement durable. Et c'est en fait ce socle qui permet une adhésion complète au principe de finance islamique. Alors, en fait, comment maintenant on peut mettre en place de la finance, de la microfinance islamique? Donc d'abord, il n'y a pas d'interdiction avec les principes que nous ont présentés mes collègues jusqu'à présent. En fait, on peut en fait pallier à l'interdiction du riba, soit en appliquant le partage des pertes et profits. Donc c'est ce principe-là qui a été appliqué à la Grameen Bank. Donc la Grameen Bank, ça veut dire la banque des villageois. Donc en fait, la banque, elle appartient aux villageois. Donc là, on a le principe de pertes et profits qui est respecté, partage des pertes et profits. On a après plus simplement le taux d'intérêt qui peut être remplacé par une commission ou par des frais de dossier, donc qui sont fixes et qui sont déterminés à la signature du contrat. Sinon, on peut également utiliser la ZAKET et le WARF donc comme source de financement pour les. Donc on va reverser ces dons à un organisme qui va faire de la microfinance et donc ensuite ça permettra d'avoir des fonds pour pouvoir financer les porteurs de projets. Et donc d'ailleurs, à ce propos, lors du forum de la finance islamique à Dakar en 2007, la Banque islamique de développement donc, a insisté sur l'utilisation justement de la ZAKET et du WARF comme source de financement. Et on a également la purification des bénéfices qui peut être utilisée, j'en reparlerai un peu plus tard, donc, notamment lorsque vous ne voulez pas recevoir les intérêts liés à vos placements financiers ou lorsque vous voulez purifier les dividendes, vous allez pouvoir les reverser également à un organisme qui, lui, va s'en servir comme fonds pour financer les entreprises. Donc là, je vais vous présenter deux expériences plus concrètes. Alors, une première expérience qui se déroule au Yémen, je dirais une approche un peu plus commerciale, et ensuite une expérience qui se déroule en France. Et donc au Yémen, en fait, donc là-bas, bon, donc une personne va être contente d'un projet et donc va souhaiter un financement. Donc là, on va passer par un contrat islamique que nous a présenté Tariq, la Mouklabara, excusez l'accent. Donc là, en fait, les projets vont être étudiés. On va déterminer en fait quels vont être les biens à acquérir pour exercer en fait l'activité du porteur de projet. Donc là, les parties prenantes vont négocier. Donc il y aura trois parties prenantes, le vendeur des biens concernés, l'acheteur qui est le porteur de projet et l'agent de crédit en fait qui fait l'intermédiaire. Donc on va déterminer donc quels sont les biens à acquérir. Ensuite on va aller voir le vendeur, on va négocier le prix de vente. Acheteur-vendeur, agent de crédit vont négocier le prix de vente. Ensuite, une fois le prix de vente négocié, l'agent de crédit et l'acheteur donc, et le porteur de crédit vont négocier une commission. Donc ensuite, les contrats sont signés, tous les montants sont déterminés à l'avance et l'agent de crédit, enfin le porteur de projet remboursera l'agent de crédit suivant des échéances qui auront été fixées également à l'avance. Et là, donc, comme le disait aussi également Tariq, le droit de propriété est tout de suite redonné à l'acheteur, en fait, pour qu'il puisse exercer son activité, dégager les bénéfices lui permettant de rembourser à terme fixé, l'agent de crédit. Donc voilà, en fait, pour le microcrédit islamique au Yémen. Il y a aussi une différence avec la microfinance classique, c'est qu'il n'y a pas de pénalité si jamais les remboursements s'effectuent en retard. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer à un sujet un peu plus français. Donc en fait, en France, j'ai envie de dire, sans choquer les puristes, on fait de la microfinance islamique. On fait en tout cas une ébauche, une initiative. Donc là récemment, la mairie du 18e, elle a mis en place le microcrédit personnel. Donc là, c'est pas pour financer une activité génératrice de revenus, c'est pour financer un projet qui va vous permettre d'améliorer votre cadre de vie, c'est-à-dire un accès aux soins, un accès, par exemple, à financement d'une formation, le financement du permis de conduire. Donc là, en fait, les montants vont être de 300 à 3000 euros, vous voyez des petits montants, tout de même sur des durées assez courtes qui varient entre 6 à 36 mois. Donc là, en fait, comment ça se met en place? Donc vous allez voir la mairie du 18e. Donc ils vont étudier votre projet, ils vont vous financer, ils vont vous appliquer un taux d'intérêt qui est de 4%. Donc c'est pour ça en fait je dis que c'est vraiment une initiative, c'est borderline en fait de la finance islamique. Donc ils vous appliquent un taux d'intérêt de 4%. À la fin, à terme du remboursement, si vous avez remboursé dans les temps, la mairie de Paris vous refinance 2%, donc elle vous rembourse les 2% que vous avez payés. Et ensuite, donc intervient le secours islamique de Paris, donc qui va vous rembourser les 2% restants, donc également si vous avez respecté les termes du contrat. Et donc en fait, au final, vous aurez eu un financement qui n'aura pas eu d'intérêt. Et donc là, en fait, c'est une activité qui s'est juste mise en place en 2009 et donc qui a pour l'instant, qui a pour objectif de financer 1000 projets d'ici la fin de l'année. Et oui, également, les sources de financement en fait, du secours islamique elles récoltent en fait les intérêts qui sont reversés par les épargnants qui ne souhaitent pas recevoir justement les intérêts de leur placement financier. Donc voilà, je suis désolée, j'étais un peu rapide, mais bon, là, c'est un peu éternisé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais laisser maintenant la parole à Anor Hassoun qui va faire un petit topo.
Voilà, merci Christelle. De toute façon, rapidement, je passerai la parole à notre ami Anwar Hassoun qui nous a honoré par sa présence et vice-président senior analyste Moody's. Barakallahu fik d'avoir accepté de venir de participer à cette rencontre. Et on a aussi la présence de notre ami Kader qui est président fondateur de l'association PNIC. Barakallahu fik.
Merci Kader pour ton invitation, merci à la Mosquée de Paris de m'avoir et à l'Institut Razali en effet de m'avoir invité à cette conférence. Écoutez, je ne vais pas être long, vous allez me subir pendant une dizaine de minutes j'espère. L'idée réellement c'est de parler de l'institutionnalisation de la finance islamique en France. Et je vous propose en l'occurrence trois sujets. Le premier sujet c'est réellement une série de constats. Le deuxième Ce sont les conditions et les raisons de l'émergence de la finance Linux en France. Il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui la place de Paris, la France en général, s'intéresse à la finance islamique. Et enfin, les modalités de l'intégration de la finance islamique en France, on verra qu'il y en a quatre. Et on verra que c'est tout azimut. La stratégie française d'émergence de la finance islamique sur son territoire hexagonal est à la fois exhaustive, c'est-à-dire complète, et ordonnée. À la différence des anglo-saxons, à la différence des britanniques notamment, nous avons souhaité faire ça de manière à peu près rationnelle, de penser les choses avant de se lancer un corps perdu dans l'ouverture d'institutions financières islamiques qui pourraient ne pas savoir ce qu'elles font. Et en l'occurrence, on a pensé la chose avant de l'agir. Alors, un certain nombre de paradoxes. Il y en a trois. Il y a 6 millions de musulmans en France, il n'y a pas de banque islamique. Deuxième paradoxe, les banques françaises font de la finance islamique depuis toujours, mais pas sur le territoire français. Troisième paradoxe, le droit français est très proche des principes du droit islamique, et pourtant, il n'y a pas de transactions financières islamiques en France, en tout cas très peu. Alors pourquoi est-ce que la finance islamique s'enracine en France de manière progressive, mais de manière radicale? Alors, la question n'est pas de savoir pourquoi, c'est pourquoi maintenant? En l'occurrence, il y a deux types de raisons, des raisons exogènes et des raisons endogènes. Les raisons exogènes, d'une part, c'est que la finance islamique a gagné ses lettres de noblesse. Quand bien même ce serait une industrie jeune, qui n'a que 30 ans, vous vous rappelez, hein, la première banque islamique au monde est née en 1975 à Dubaï, ça s'appelle Dubai Islamic Bank, c'est ma cliente depuis 10 ans, je la connais très bien. Et en l'occurrence, cette banque-là, aujourd'hui, est devenue partie prenante de la finance internationale. Des banques comme Kuwait Finance House sont présentes dans 5 pays. Ar-Rashid, pendant longtemps, a été une banque islamique saoudienne et aujourd'hui est implantée en Malaisie. La finance islamique a gagné ses lettres de noblesse, à la fois en qualité, mais aussi en taille. Aujourd'hui, la finance islamique, c'est 840 milliards de dollars. L'année prochaine, en 2010, on passera vraisemblablement la barre symbolique des 1000 milliards. 1000 milliards, c'est 1 trillion. Je vous rappelle simplement que la masse de la dette des pays émergents, donc des pays qui ne sont pas partis de l'OCDE, c'est autour de 750 milliards. Donc aujourd'hui, la finance islamique mondiale, c'est 30% de plus que l'ensemble de la dette libellée en dollars des pays émergents. Donc typiquement, aujourd'hui, la finance islamique fait office de classe d'actifs à part entière. Alors ensuite, des raisons qui sont endogènes à l'économie française. Première chose, l'économie française, comme n'importe quelle économie occidentale, a souffert de la crise. La crise, c'est terrible pour quasiment tout le monde, même pour nous autres agences de notation. On subit des contre-coups qui sont de l'ordre de 30% de perte de revenus, ça fait à peu près 1 milliard de dollars, c'est quand même beaucoup. Mais pour la finance islamique, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que typiquement, c'est une alternative éthique. L'objectif, c'est la moralisation de l'économie, la moralisation des transactions financières, et donc trouver des alternatives, des solutions, de manière à rapprocher la finance de l'économie réelle et à lui donner sa juste place. Non pas se substituer à l'économie réelle, mais servir l'économie réelle. Et s'il y avait un seul credo de la finance islamique, ce serait celui-là. Servir. Servir les entrepreneurs, servir les ménages, servir les États, servir les collectivités locales. Donc la finance islamique, elle se met en dessous et pas au-dessus. Elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas, elle n'est qu'une interface. Alors ensuite, pourquoi la finance islamique en France? Il y a une exigence de crédibilité, une exigence d'éthicisation des transactions économiques. Les banques, même si les banques françaises aujourd'hui ont plutôt mieux résisté à la crise, elles sont en demande de crédibilité et de légitimité à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Encore une fois, la finance islamique permettra sans doute, vraisemblablement dans un avenir très proche, de rendre aux transactions financières leur juste place, encore une fois, du point de vue de la crédibilité, de la légitimité des banquiers. Alors ensuite, quelles sont les conditions de l'émergence de la finance islamique en France? Et bien, tout simplement, il faut à la fois l'aval du monde économique, du monde des affaires, l'aval du monde politique, l'aval de l'opinion et celui de l'administration. Les anglo-saxons appellent ça « bureaucracy ». En France, on dit « administration ». Alors typiquement aujourd'hui, ces quatre facteurs clés de succès sont aujourd'hui de notre côté. D'une part, le monde politique a pris acte du fait que la finance islamique était une solution possible à la crise. Et ça, il y a un an. J'ai eu le plaisir à cette occasion-là de rencontrer Kader. C'était précisément à l'occasion d'une conférence que le Sénat avait organisée avec justement nos élus. La deuxième chose, l'administration. Et quand on parle d'administration dans le monde financier, on parle de la Banque de France. Aujourd'hui, la Banque de France est très bien aguerrie, très aguerrie au principe de la finance islamique. La Banque de France comprend la finance islamique et la Banque de France l'encourage. Ensuite, l'opinion. Si vous avez remarqué au cours des deux dernières années, le nombre d'articles qui paraissent en français dans les médias francophones, qu'ils soient nord-africains, qu'ils soient africains, qu'ils soient français sur la finance islamique, on n'en a jamais vu autant. Enfin, les professionnels via des conférences, comme aujourd'hui, via des séminaires. En France, il y a deux ou trois séminaires par mois sur la finance islamique, que ce soit dans le nord de la France, à Strasbourg, à Paris, ou même dans le sud de la France. Et enfin, typiquement les professionnels, encore une fois, c'est-à-dire les entreprises. Aujourd'hui, nombre de PME font appel à des investisseurs islamiques pour des levées de fonds, soit sous forme de dettes, soit sous forme de fonds propres. On verra dans quelle manière dans une seconde. Alors enfin, comment ? Eh bien, tout simplement par l'émergence d'une institution très importante, qui est l'excroissance du ministère des Finances, qui s'appelle Paris Europlace, qui est présidée par un juriste, justement, Maître Gilles Saint-Marc, et qui, depuis 18 mois, ne tarit pas d'éloges sur la finance islamique d'une part, et d'autre part, fait tout son possible pour essayer de l'enraciner sur notre territoire hexagonal. Alors comment ça va se passer ? Eh bien, typiquement, il y aura quatre choses. Il y aura une banque, il y aura un certain nombre de formations, il y aura des sociétés de conseil, et enfin, il y aura des instituts. Il y aura des banques. Il y aura sans doute au moins trois institutions financières islamiques en France. La première sera une banque corporate, dont l'objectif est de faire de la BFI, de la Banque de Financement et d'Investissement. Elle servira essentiellement les entreprises. Elle ne nous servira pas, nous, en tant qu'individus. Son objectif est de lever des fonds là où il y a déjà de la finance islamique, à savoir chez nos partenaires du Golfe, dans les pays musulmans, et d'orienter ces fonds investissables vers l'économie française à travers un certain nombre de véhicules, typiquement Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Ijar, Istisna et autres, via des soukouks ou du financement direct. Il y aura aussi vraisemblablement la filiale française d'une banque islamique déjà installée au Moyen-Orient. Vous avez vu dans la presse des noms comme la Qatar Islamic Bank, Kuwait Finance House, Al Baraka Banking Group de Adnan Youssef, qui est un très bon ami. En l'occurrence, je lui ai parlé avant-hier, il est très intéressé par s'installer en France. Pourquoi ? Al Baraka Banking Group, comme vous le savez, c'est de la banque de Sher Salah. Sher Salah est un Saoudien qui est un des pères fondateurs de la finance islamique dans les années 70. Et son objectif à lui, c'est un monsieur très bien, d'un certain âge, c'est de créer la plus grande banque islamique au monde avant de se retirer. Et typiquement, aujourd'hui, Al Baraka Banking Group, c'est 1,5 milliard de fonds propres, bientôt 3 milliards et vraisemblablement 10. Avec ces 10 milliards, il y a une place, peut-être, pour quelques milliards investissables en France. Enfin, troisième chose, il y aura vraisemblablement, ce n'est qu'une question de temps, une fenêtre islamique d'une banque française, déjà installée. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre islamique ? Ça n'est rien d'autre qu'une série de produits mis à la disposition des consommateurs, musulmans ou pas, qui souhaitent faire de la finance éthique, mais une finance éthique d'une certaine manière, celle qui se prévaut des principes de l'islam financier. Vous savez qu'il y en a cinq, on les a déjà vus, nos riba, nos haram, nos halal, nos maïsir, et puis l'obligation de l'adossement à un principe tangible, et puis enfin, le partage des profits et des pertes. Une banque française, au moins une banque française, s'intéresse au développement de ces produits-là. Alors, sachez qu'à La Réunion, ça s'est déjà fait. C'était un test. Le fonds Sharia Liquidité, c'était un test, un produit d'épargne. L'objectif est de généraliser les produits de finance islamique via un réseau français sur le territoire hexagonal. Première chose. Deuxième chose, il faudra des formations. Et là aussi, bonne nouvelle, ça existe déjà. Je vois ici les étudiants de l'IFESI, c'est la première formation en finance islamique en France. D'accord ? À Boissy-Saint-Léger, la deuxième est à Strasbourg. C'est un diplôme universitaire de finance islamique. À la rentrée, si tout va bien, Inch'Allah, une grande université parisienne devrait piloter un programme de master en finance islamique à l'instar de ce qui se fait à Strasbourg. Donc aujourd'hui, on forme déjà les futurs cadres des banques islamiques en France et les cadres français qui iront s'aguerrir à la finance islamique là où on a déjà, en Malaisie, dans le Golfe et ailleurs. Alors la formation, ce n'est pas que la formation initiale, c'est aussi la formation continue. Et c'est là qu'on fait le lien avec le troisième pilier de l'enracinement et de l'institutionnalisation de la finance islamique en France, la création d'un institut. Cet institut sera présidé par Hervé de Charette, ancien ministre des Affaires étrangères. L'annonce de l'ouverture de l'institut se fera dans les prochains mois, on l'espère avant l'été, mais si ce n'est pas avant l'été, ce sera pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et en l'occurrence, cet institut aura deux vocations. La première, c'est justement la formation des professionnels, ceux qui sont déjà installés dans les métiers de la finance, mais qui souhaitent faire de la finance éthique. Et puis, la recherche, c'est très très important pour nous autres qui sommes englués toute la journée dans les transactions économiques et financières, que de pouvoir s'adosser sur la production intellectuelle intense de chercheurs. On ne peut pas faire de finance islamique sans une université française de la finance islamique, et c'est la raison pour laquelle nous créerons notre propre école doctorale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer une université. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attirer à l'intérieur de l'Institut tous ceux, des chercheurs, qui font des thèses sur la finance islamique, à partager l'information avec nous. Et nous, en contrepartie, nous allons partager avec eux la bibliothèque française de la finance islamique. L'objectif de la contribution des membres de cet institut sera une fondation, sera justement de dépenser de l'argent pour financer des thèses et pour acquérir des ouvrages. C'est par la pensée, l'intellect, l'effort intellectuel, l'ijtihad, que nous arriverons à créer une école française de la finance islamique. Enfin, il nous faut des sociétés de conseil, des compagnies de conseil, qui feront tout ce que les banques ne pourront pas faire. Qu'est-ce que les banques ne font pas ? Les banques, comme vous le savez, aujourd'hui sous-traitent un certain nombre d'opérations. Typiquement, les banques ne font pas très peu de private equity, ne font pas d'investissement direct dans les entreprises, parce que c'est risqué. Les banques ne font pas d'intermédiation d'affaires sur des petits montants. Et donc typiquement, aujourd'hui, il existe deux entreprises qui s'occupent de ça. Elles ont deux mois d'existence. La première s'appelle Global Secure Finance. Global Secure Finance fait de l'intermédiation d'affaires. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en relation les entrepreneurs qui ont besoin de financement, notamment en fonds propres, avec des investisseurs en finance islamique pour des gros montants au-delà de 1 million d'euros. Mais pour les petits montants en deçà de 1 million d'euros, vous aurez un portail qui existe déjà et qui est encore en construction qui s'appelle islandgels.com. Islandgels, c'est quoi ? C'est un business angel charia compatible, c'est le premier du genre dans l'hémisphère occidental. Même les anglo-saxons et même les américains n'ont pas réussi à faire ça avant nous, on en est très fiers. Et c'est déjà un point de départ. Ça a deux mois d'existence, donc ne vous emballez pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement industrialisé, mais ça devrait venir. En conclusion, moi je vous en donnerai trois ou quatre. La première chose, c'est que n'oubliez pas que la finance islamique, quand bien même elle a été très résiliente, très résistante à la crise actuelle, n'est pas immunisée contre tous les risques. Le risque majeur de la finance islamique, les étudiants que nous avons à l'IFESI et à Strasbourg l'ont déjà bien intégré, c'est un risque de réputation. La pire chose qui puisse arriver, c'est que la banque islamique en France soit considérée comme insuffisamment charia compatible. Et ça, c'est terrible, et c'est la raison pour laquelle il nous faudra des charia bornes. Alors qu'en est-il des charia bornes en France ? Il en existe au moins un qui s'appelle la CERFI, et on aura bientôt un deuxième, voire un troisième. Aujourd'hui, nous sommes équipés de jurisconsultes extrêmement compétents, capables de se mettre au service des institutions. La deuxième chose, c'est une alternative éthique et crédible, pas une solution, pas la solution. La finance islamique en France restera un complément, pas un substitut. Son objectif n'est pas de faire la révolution de la finance en France, pas du tout. C'est simplement de proposer une alternative crédible. Troisième conclusion, la France est une chance pour la finance islamique autant que la finance islamique est une chance pour la France. Sachez qu'un des problèmes de l'industrie financière islamique que nous suivons depuis plus de 15 ans, 10 ans pour ce qui me concerne et quelques années pour mes aînés, et bien typiquement, c'est la concentration des actifs. Les institutions financières islamiques sont trop concentrées, elles sont aussi soumises à des risques de liquidité, elles ont des risques qui leur sont spécifiques. Donc typiquement, pour organiser l'émergence de la finance islamique en tant qu'industrie viable sur le long terme, donc suffisamment diversifiée, eh bien, la finance islamique a besoin de l'économie française, autant que l'économie française aujourd'hui a besoin de la finance islamique pour une raison aussi très simple. Lisez le rapport Julie Pastré, la liquidité. Un des rares endroits aujourd'hui où la liquidité reste prévalente, c'est justement les économies moyen-orientales où la finance islamique est déjà bien enracinée. Enfin, et ça ce sera le dernier mot, et j'espère que je n'ai pas été trop long, ça fait exactement 11 minutes, la finance islamique c'est un pont entre deux mondes, au-delà des transactions économiques, au-delà des transactions financières. L'idée c'est simplement faire en sorte que la société française, le monde occidental, puissent se rapprocher de ses partenaires naturels que sont le Moyen-Orient et l'Asie musulmane. Ça fait bien trop longtemps que nous nous sommes boudés, il serait temps aujourd'hui que nous travaillions ensemble. Voilà.
Voilà, fait confrère. Non, vraiment, ça sent l'expert, net, clair et précis, direct. Voilà, fait. Donc, rapidement, je donnerai la parole. Je vous donne la parole et j'espère que les questions seront très brèves. Et nos amis, nos collègues, nos frères, c'est-à-dire leur réponse aussi serait très brève parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions et essayez d'être bref et nous essayons aussi de donner nos réponses et des réponses des experts qui seront très brèves. Voilà que l'on fait. Celui qui veut poser une question.
Bismillahirrahmanirrahim. وشكركم على هذه المبادرة القيمة في البنك الإسلامي كما تفضلتم به، ولكن أنا أريد أن أوجه سؤالي إلى الذي له التخصص في الفقه، وتكلمتم على فقه المعاملات وفقه الواقع، نريد توضيحا في كما تفضل الشيخ قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والآيات كثيرة في تحريم الربا، والأحاديث كثيرة في تحريم الربا. هذا هو سؤالي وأريد أن أجاوب على الأرض.
Bon, le frère pose une question concernant le riba. Moi, je sais très bien, la question elle est un peu, on va dire, métaphorique. Hein, parce qu'il a posé une question, mais il veut à travers ça poser une autre question, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, nous, on a dit, j'ai commencé déjà dans l'introduction par citer le verset qui a interdit le riba, l'usure, l'intérêt, etc. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on l'interdit. Maintenant, je comprends ta question. Peut-être qu'elle se pose pas à nous, elle se pose au Conseil européen de la loi qui a autorisé certaines opérations vu une situation, etc., etc. C'est ça, c'est bien ça. Bon, cette question, il faut la transmettre au Conseil de la loi. Nous, on essaye avec nos frères et sœurs d'essayer de mettre en chantier, enfin nous, les experts, on est là, chers et bon, on essaye de faire ce qu'on peut, c'est d'essayer de mettre en chantier une économie financière loin de l'IMA. J'espère que vous avez répondu.
Juste une question encore. Enfin, la question est très importante parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de gens qui prennent un peu les choses un peu. Ou bien un extrême qui dit que toute transaction, même si c'est du service, c'est considéré comme du riba tant qu'il n'y a pas d'actif tangible. Et entre ceux qui autorisent de façon un peu hors norme des transactions qui comportent évidemment du riba. Donc je cite notamment le fiqh hanafite dans ce qui est fiqh d'Odar al-Harb, qui est un fiqh très minoritaire, mais qui a répondu à un moment donné de l'histoire musulmane en Irak, parce que l'imam Abu Hanifa il a grandi en Irak, il a produit son effort intellectuel jihad en Irak. C'est une école de raïs, c'est une école qui se base beaucoup sur la vie, sur l'intelligence. Et dans son école, il y avait effectivement cette complexité de la société et ces dérives, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes à la charia. Et donc il y avait ce qu'on appelle en islam donc l'umum belwa, il y avait des choses qui étaient au-delà de ce que c'était pas la société médinoise de l'imam Malik, c'était une société plutôt marquée par des dérives, par beaucoup de entre guillemets de problèmes de compréhension de la charia et d'application de la charia. Donc l'imam Abou Hanifa a sorti tout un fiqh qui est un petit peu souple et qui a été on va dire revu par l'imam Qadawi par exemple, qui a donné une certaine fatwa sur le prêt immobilier ici en France. Il a parlé, entre guillemets, de problèmes civilisationnels. Il a parlé de manque, aujourd'hui, d'institutions financières islamiques en bonne et due forme. Et qu'il a dit très clairement à la fin que s'il y a maintenant, aujourd'hui, des banques islamiques, tout ce qu'il a dit est à jeter à la poubelle. Donc c'était simplement pour lui une façon de faciliter la vie des musulmans et de les rendre, de leur permettre de s'insérer dans l'économie mondiale et ne pas les priver de ce que peut apporter la finance conventionnelle. Donc pour ne pas que le musulman soit faible dans son milieu. Donc voilà ce qu'il a. Mais c'est un débat très très houleux et très, on va dire, qui très complexe et qui n'est pas le propos. Hein. De toute façon, ce qui est clair, c'est que riba c'est haram, ça c'est la règle. Il ne
faut pas démarrer de ça. Yallah, on a
deux
soirs.
Assalamu alaikum. Je commence par remercier l'Institut de la Réalité.
critique qui me gêne d'abord comme musulman et après comme chercheur sur le monde islamique et aussi le secteur islamiquement des banques françaises. Moi, j'avais des soucis comme musulman de donner mon argent pour avoir du business avec des banques islamiques qui entrent dans des projets financiers avec des banques islamiques ou avec les banques conventionnelles qui ont des secteurs islamiques. Et je pose toujours la question, est-ce que le fait que ces banques rembourse ou finance des projets qui sont interdits par l'islam, bon, moi comme musulman, en donnant mon argent à ces banques, favoriser des opérations économiques non musulmanes. Donc je veux savoir comment ils séparent et comment, comme musulman, je serais en jour pour Dieu, Dieu va me poser la question, pourquoi vous avez donné votre argent à ces banques, tandis que vous savez très bien qu'ils donnent leur argent à des vendeurs de vin, du pain, une deuxième question serait très brève sur le contrat du Mubarak, et toujours j'ai des problèmes avec ce contrat pour comprendre. Si j'ai bien compris, dans la charia islamique, il est interdit de vendre quelque chose que je ne détiens pas dans mon propriété. Il faut que j'aie le contrôle complet sur la chose pour que je puisse la vendre. Et si j'ai bien compris le contrat du Mubarak, il y a trois contrats qui se passent dans le même temps. La banque, comment elle peut vendre un produit en même temps qu'elle ne détient pas. On sait très bien que la banque de charia paradis, il y a la rencontre de l'offre et la demande, les volontés se sont rencontrées, le contrat est formé entre la banque et le client, et la banque sait déjà qu'il doit vendre son produit avant même qu'il achète. Et le client, il a déjà accepté d'acheter de la banque, avant même qu'il sait très bien que la banque ne détient pas la voiture ou la maison. Et Charsa a posé aussi la question très intéressante sur l'absence de pénalité. Moi, en tant que consommateur, je veux savoir si je vais aller devant la banque islamique, est-ce que si j'ai des problèmes et je ne paye pas, comment la banque pourra me traiter. C'est quoi la question de l'absence de pénalité dans les négociations ?
Moi, je vais répondre ensuite. Vous souhaitez que qui réponde ? Le point de vue du chef ou le... Bon, je peux commencer. Hein.
Moi, j'aime pas ça, c'est trop métallique. Alors, la première chose, les banques islamiques qui font des transactions avec les banques conventionnelles. Sachez que le point de passage entre les banques islamiques et les banques conventionnelles, c'est la gestion de la liquidité. Il n'y a pas aujourd'hui de marché monétaire charia compatible. Qu'est-ce que c'est qu'un marché monétaire ? C'est le marché où les banques se prêtent et s'empruntent les unes aux autres. Donc typiquement, les banques islamiques doivent placer leur argent partout. L'exigence, c'est la diversification. Et donc quand elles doivent placer leur argent sur le marché monétaire, elles peuvent placer leur argent auprès d'autres banques islamiques, mais ces autres banques islamiques ne sont pas forcément disponibles. D'autre part, elles n'ont pas forcément des lignes de contrepartie avec toutes les banques islamiques de la planète. Enfin, il y a aussi une exigence de risque. Donc typiquement, la contrepartie majeure de la plupart des banques islamiques, c'est Deutsche Bank. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est libre ? Oui. Non, pas du tout, parce qu'en l'occurrence, les banques islamiques utilisent un produit qui s'appelle la Short Term International Murabaha, c'est une Murabaha de court terme, où le sous-jacent, c'est une commodity, on arrive à répliquer de manière charia compatible un dépôt interbancaire islamique. Est-ce que c'est halal ? Les charia banques disent non. Ils disent que c'est parfaitement halal. Parce que moi, je suis autorisé, en tant que pauvre citoyen lambda, à me prévaloir d'une connaissance meilleure que celle des charia scolaires, non. Donc, en l'occurrence, on consomme les fatwas, et les fatwas nous disent que c'est une Short Term International Murabaha. Quand bien même la banque islamique place auprès de la banque conventionnelle son halal. Alors, deuxième chose, c'est les fenêtres islamiques. Est-ce qu'on peut avoir la certitude que la banque conventionnelle qui ouvre une fenêtre islamique gère les comptes charia compatibles de manière distincte des comptes de la banque conventionnelle? La réponse est oui. En l'occurrence, c'est une exigence, parce que pour faire une fenêtre islamique, il faut un charia board. Et le charia board, je vous le rappelle, valide les process, les produits, mais aussi l'ensemble de l'infrastructure. Et donc, en l'occurrence, pour qu'une banque conventionnelle fasse de la finance islamique, il lui faut un système d'information distinct. Et ce système d'information, en général, est mis en place par une société qui s'appelle Path Solution, qui est une société koweïto-libanaise et qui est spécialisée dans la fourniture de systèmes d'information qui permettent la ségrégation des comptes. C'est ce qu'on appelle le principe du no-commingling, pas de mélange entre les différents comptes. Donc vous pouvez y aller, mais la question se pose la plupart des consommateurs qui ont accès à des fenêtres islamiques mais pas à des banques islamiques se posent la même question. Ils disent est-ce que c'est halal ? Non, c'est pas halal. Moi, je ne peux pas répondre. Il faut que vous posiez la question à Cheikh, qui est beaucoup mieux placé que moi pour y répondre. La Murabaha, vous dites que la banque islamique ne détient pas le produit. Si, la banque islamique achète le produit et vend le produit. Le contrat auquel vous faites référence, c'est le contrat de Walat. Ou donc, peut-être le contrat de Salam, encore que le contrat de Salam, en l'occurrence, le Salam est utilisé dans l'agriculture, où typiquement la banque islamique fournit les semences. L'istisna, la banque islamique fait
les investissements en capital expenditures, donc les investissements en capital, et le besoin en fonds de roulement. Donc la banque chimique est propriétaire du projet financé tout autant qu'elle est propriétaire des semences. Ensuite, elle récoltera les semences après. Le contrat que vous posez, la question que vous posez, c'est le WALT, la promesse. Je vous fais la promesse de vous fournir une action France Télécom dans 3 mois, à un prix de 80. D'accord ? Je suis la banque, vous êtes le client. Vous avez besoin d'une action France Télécom dans 3 mois au prix de 80. Admettons que dans 3 mois, le prix de l'action France Télécom baisse à 70. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de l'acheter sur le marché à 70, de vous le revendre à 80, je fais un profit de 10. Et là, je spécule. Donc, en l'occurrence, certains charia bord disent « c'est pas halal, c'est haram », et d'autres disent « c'est halal ». Ça dépend de quoi ? Nier. Votre intention. Si l'intention, c'est le rarar, ou la spéculation, ou le maïsir, effectivement, ce ne sera pas. Mais si votre intention est autre que la spéculation, ce sera vraisemblablement. Encore une fois, je parle sous le contrôle du chouïur. Enfin, la question que vous posez, c'est celle du défaut. Qu'en est-il si une entreprise fait défaut? Vous savez que payer ses dettes, c'est une obligation. Il y a deux choses. Soit l'entreprise est en difficulté, auquel cas la banque islamique sera incitée à restructurer la dette. Il est peu probable que la banque islamique soit à l'origine du défaut de la contrepartie. Alors ça, c'est pour une entreprise. Ce sont des relations commerciales, transactionnelles. Bon, ça ne pose pas de problème éthique majeur. Qu'en est-il s'il s'agit d'une famille? En l'occurrence, les banquiers islamiques font tout leur possible. Tout leur possible. Et je vous assure que c'est vrai. Pour éviter de mettre des familles musulmanes à la rue. Et donc, en l'occurrence, pendant 6 mois, 9 mois, parfois même 1 an, Adnan Youssef al-Baraka l'a fait pendant plusieurs familles à Bahreïn. Pendant 1 an, la banque protège son client. Parce qu'en général, quand un ménage fait défaut, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il ne veut pas payer, c'est parce que le papa est malade, la maman a perdu son emploi, les enfants ont des soucis, enfin des choses comme ça. Et donc ça, c'est une exigence de Qard Hassan. Après ça, soit la famille a réussi à s'en sortir, auquel cas la banque reprend le contrat, soit la famille n'a pas réussi à s'en sortir, auquel cas on restructure la dette. Typiquement, la famille vit dans un 4 pièces, et bien on va essayer de faire en sorte de lui trouver un 2 pièces, de telle sorte que la charge de remboursement ne l'amène pas à la rue. Et ça, c'est l'exigence éthique des banques islamiques. Personne ne le sait, mais c'est très, très important.
Moi, je pense qu'il y a eu une confusion tout à l'heure dans les bases des comportements dans le fiqh islamique de Mu'amalat. Il est très important de savoir que le rarar est haram, donc le rarar c'est l'excessif, et la spéculation sur l'avenir, donc tout ce qui est incertitude extrême, est aussi illicite. Et donc aussi la vente d'une dette est aussi donc quel et belquel. Par contre, la murabaha, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la banque s'approprie le bien, donc il est en sa possession, et elle le vend. C'est ce qui se passe, hein, que ce soit dans le mobilier ou l'immobilier. Donc, après, il y a la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, il a essayé de la comparer au taux d'intérêt. La marge bénéficiaire en islam, elle est effectivement les règles de contractants et du marché. Donc, il n'y a pas donc, la banque islamique, en tant qu'acheteur, elle a acheté, c'est son bien, il devient son bien. Vous allez me dire qu'il y a eu promesse de vente, mais ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse dans le fiqh islamique, c'est que la banque islamique, elle détient un actif tangible qu'elle possède à l'instant T, où elle le revend. Donc ça, c'est la murabaha. Donc c'est pas le salam. Et la murabaha, comme j'ai dit, c'est le uqud al-amanat, c'est-à-dire il y a obligation qu'elle vous dise le montant initial et la marge. Et donc c'est bi'l ajal, donc c'est dans l'islam, il y a unanimité des 4 écoles sur la licéité de ce contrat, parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle bi'l ajal et de ce qu'on appelle bi'l taqsit. Ah, c'est très important. Donc ça n'a rien à voir avec la vente d'une dette, parce que dans le contrat avec une banque conventionnelle, c'est que vous vendez de la dette avec de la dette. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous vendez 100 000 euros, enfin la banque vous vend 100 000 euros à 120 000 euros dans 15 ans. Ce n'est pas comme si elle vous vend un bien à 100 000 euros avec 120 000 euros dans 15 ans. Ce n'est pas la même chose en islam. Parce que là, vous avez vendu de l'action. Pour le salam, c'est l'exception. Le salam el-sisna, ce sont les exceptions de la vente de ce qu'on n'a pas. Parce qu'en islam, il est interdit de vendre ce qu'on n'a pas et ce qu'on ne possède pas, à l'exception du salam et de l'istisna. Ce sont les deux seules exceptions dans le fiqh islamique qui sont validées par les 4 écoles. Encore que l'istisna, il n'est pas validé par toutes les écoles. Mais en tout cas, le salam, il est validé par toutes les écoles, et c'est l'exception de la vente de ce qu'on ne possède pas pour faciliter la vie des gens.
Comment?
Non, dans le salam, vous ne retrouvez pas le rarar, parce que c'est des facilités. C'est-à-dire, dans le salam, il y a quelqu'un qui veut du blé au mois de juin, Il donne l'argent à l'agriculteur, l'agriculteur va acheter avec cet argent là le blé, donc il n'y a pas d'élément de rara, parce que tout a été spécifié dans le contrat, et le délai, et les quantités, et la catégorie, la qualité du blé, c'est du blé tel ou du blé tel, etc. Donc c'est très précis les contrats de Salem. Et dans le contrat, vous avez tout sur le produit à livrer, la date de livraison, tout ce qu'il faut.
Donc, oui, mais excusez-moi, c'est pour une condition quelconque, cette réalisation n'a pas pu avoir lieu.
Ça, c'est une autre question.
Par exemple,
Abu Hanifa, ce qu'il a prévu dans le contrat du Salem, en annexe du contrat du Salem, il a dit, parmi les conditions de validité du Salem, c'est que le produit soit sur le marché au moment de la livraison, c'est-à-dire en mois de juin, qu'on soit sûr, et par l'habitude des gens, que le blé de telle catégorie qui est dans le contrat soit livrable et disponible sur le marché ordinaire.
Alors au-delà de l'habitude des gens, vous utilisez un contrat de takaful.
Oui,
l'assurance islamique. Aujourd'hui, vous savez que la plupart des banques islamiques ne font pas que de la finance islamique, mais aussi de l'assurance. On parle d'ailleurs non pas de modèle de banque assurance, mais de banque takaful. Les banques assurent leurs clients de manière charia compatible si elles le peuvent. Et puis les charia scolaires, les jurisconsultes nous disent que s'il n'y a pas de takaful disponible, alors temporairement, pendant une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans, on peut utiliser de l'assurance conventionnelle. Mais il est meilleur et préférable d'utiliser des contrats de takaful.
Donc c'est pour aborder
les aléas.
Tout à fait.
Les aléas de la vie. Cette production au cas où il y a une défaillance indépendante de la volonté.
Absolument, mais l'activité économique est par définition aléatoire, et en l'occurrence, ces aléas, on sait les probabiliser, et donc on sait les quantifier, donc on sait les tarifer, en anglais on dit les pricer, et ça c'est l'activité des actuaires, et les actuaires aussi peuplent les sociétés de takaful autant qu'ils peuplent les compagnies d'assurance.
Pour
donner
le risque éventuel.
Excusez-moi, il faut donner la possibilité aux autres. Il y a un frère qui voudrait intervenir.
Oui, il y a plusieurs.
Ajouter quelque chose. Ensuite, essayez d'être bref, barakallah.
Nous aussi, on va être bref.
Oui, oui.
Alors,
en fait, c'est le dernier aspect de votre question. Elle apporte en fait sur les pénalités de retard. C'est-à-dire que les pénalités de retard, par exemple, le justice privée, c'est-à-dire que l'une des parties, elle prévoit le paiement par l'autre partie de certaines sommes d'argent si jamais, en co-contractant, il ne s'exécute pas à temps. C'est ce qu'on peut faire une
pénalité.
C'est l'un des. Les banques islamiques ne sont pas autorisées à prévoir de telles clauses. Ce sont les banques commerciales, ce sont les entreprises, ce sont les clauses, ce qu'on appelle des clauses standards, des clauses
pénales.
Si jamais vous ne payez pas avant, il y a une pénalité qui est. Alors les banques islamiques, ils ont fait preuve d'une certaine innovation en matière contractuelle. C'est quoi la finance islamique? C'est l'ensemble des techniques économiques, juridiques, financières qui sont compatibles avec les charia. Pour la question des finalités de retard, ils ont créé deux systèmes. Le premier, c'est que on va autoriser la banque islamique à insérer des clauses pénales. Néanmoins, le produit de ces clauses pénales va être versé à des instituts, reconnues d'utilité publique. C'est-à-dire, il y a des pénalités de retard, mais la banque n'en tire pas profit. Elles sont versées à des institutions reconnues d'utilité publique. Le deuxième montage qui est assez intéressant, c'est qu'on peut majorer le prix. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un prix, un bien par exemple à 100 ou à 120, on le paye à 140. Et si vous payez à temps, vous exécutez en fait à temps, on va prévoir un certain remboursement. Comme ça, il n'y aura pas de clause pénale au sens propre du terme. C'est-à-dire que par un montage contractuel, on peut ne pas tomber dans ce genre de clause pénale.
Moi, je vais juste
non, une phrase. Une phrase juste pour ajouter pour les pénalités de retard, c'est prévu par une norme de la UEFI qui oblige les banques qui reçoivent les pénalités de retard dont parlait Fauzi à les mettre effectivement dans les caisses spéciales qui sont les caisses de dons et c'est vérifié par les charia board que la banque ne fait aucune utilisation de ces fonds.
Ne s'enrichit pas avec ça.
Il faut juste expliquer que c'est charia board parce que depuis tout à l'heure on parle de charia board.
Ouais, c'est des conseils de conformité de charia. Je crois qu'on va prendre des questions et
on
s'engage à répondre de manière plus concise parce que sinon on ne va pas y arriver.
Voilà. Bon. On va prendre toutes les questions, et ensuite une quinzaine de questions, et on répondra. Donc, Sharia Board, c'est un conseil, si vous voulez, parce que les participants d'autres pays, parce qu'ils sont là, des simples musulmans, simples fidèles, qui ne connaissent pas grand-chose. Donc, c'est un conseil, si vous voulez, de chercheurs, de savants, de chouyours, qui vont étudier, on va dire, ces produits financiers et ces opérations, et dire, voilà, si c'est halal ou non, quand, avec, bien sûr, la collaboration des experts, etc. Voilà.
Entre particuliers.
Entre particuliers, au niveau des États, il n'y a pas de problème.
Exactement.
Même dans le système financier, c'est totalement islamique. On peut mieux garder, acheter du matériel.
Tout à fait. Défensif.
La question est réglée. Merci.
Elle n'est pas tout à fait réglée.
Voilà, je suis consultant pour la finance. Donc, moi, ce que je m'intéresse, c'est plus la gestion des garanties. C'est-à-dire que ce qui m'a gêné en quelque sorte, c'est que dans le contrat de la baraque qui était détaillé par Tariq, ce qu'il y avait d'abord l'actif qui est base de garantie, en plus de ça, on oblige le client de faire Takaful. Alors pour Takaful, là, dans l'IA, c'est-à-dire le client n'a pas besoin de Takaful. C'est-à-dire que le Takaful, c'est le site de partage.
On n'oblige pas.
Alors là, il est engagé dans un autre contrat qui est loin de l'esprit de Takaful. Donc là, il y a ce plan-là, et en même temps, le côté convoi que les intérêts moratoires, comme on exige le retard, par exemple, ou à la marque judiciaire qui est assimilée à l'intérêt. Donc là, ça nous crée beaucoup de confusion entre l'assimilation en quelque sorte, où on voit que la finance islamique se greffe sur la finance conventionnelle pour arriver à survivre dans des pays qui ne sont pas musulmans. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la question qu'on voit en France, parmi les paradoxes des 6 millions de musulmans, mais ce qui intéresse en quelque sorte, ce que j'ai vu en premier lieu, c'était la liquidité pour répondre à la crise actuelle. Et là, on trouve que, est-ce qu'après la crise, la finance, on ne va plus parler de la finance islamique en France parce qu'elle a déjà rempli en quelque sorte, son rôle de répondre à besoin des colonies françaises en termes de liquidité.
Côté fiqh et le côté peut-être finance,
ah,
pour le côté de Mourabaha, 80%, je pense.
Absolument. Sur les statistiques, combien il y a de Mourabaha dans les portefeuilles de crédit des banques? En l'occurrence, effectivement, le chiffre de 80% avait été longtemps souligné. C'est un chiffre qui aujourd'hui est un petit peu daté. Vous savez, la finance islamique a 30 ans. Pendant les 20 premières années, les banques islamiques ont fait essentiellement de la Mourabaha. Mais bon, comme vous le savez, si vous êtes banquier, si vous avez été banquier à un moment ou à un autre de votre vie, ou si vous comprenez la gestion actif-passif, asset and liability management, il y a un gros problème avec la Mourabaha. Et vous le savez, parce qu'on l'a vu en cours. Première chose, la Mourabaha, c'est un crédit à taux de rendement, yield fixe. Et le deuxième problème, c'est là où je réponds à la question de monsieur, un contrat de Mourabaha, il n'y a pas de garantie. Donc il n'y a pas de sûreté, il n'y a pas de collatéral. Une fois que vous avez acheté le bien, que vous avez revendu le bien, vous avez deux problèmes. D'une part, c'est un financement sec, et d'autre part, c'est un financement à taux de rendement fixe. Et ça, pour un banquier, c'est l'enfer. Les financements doivent se faire, si possible, à taux variable, pour pouvoir lisser les marges, et d'autre part, avoir un maximum de garanties. C'est la raison pour laquelle la nouvelle production de crédit dans les banques islamiques se fait aujourd'hui très largement, majoritairement, en utilisant les contrats de Ijara. Pourquoi? Parce que dans les contrats de Ijara, d'une part, vous avez, en tant que banquier, la propriété des actifs sous-jacents, et d'autre part, vous avez la retarification de ces contrats tous les 3 mois. Donc typiquement, le rendement sur un contrat de Ijara, c'est un rendement à taux variable. C'est encore pas un taux, hein, c'est un loyer. Donc c'est un loyer à taux variable. Enfin, pour la Ijara, vous savez, ce qui a créé la crise des subprimes, dans une très large mesure, c'est la technique de la titrisation. Sous Mourabaha, vous ne pouvez pas faire de titrisation, puisque vous avez acheté un bien et que vous l'avez revendu. Mais sous Ijara, si, puisque la banque, pendant toute la durée du crédit bail, est propriétaire du bien sous-jacent. Rien ne lui empêche, au regard du principe de ce qu'on peut pas, on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas, de le vendre et de le loger dans un fonds commun de titrisation. Donc en l'occurrence, ça répond à une autre question, quand est-ce qu'on pourra financer des biens immobiliers de manière chère et compatible en France? On le peut déjà. Soit avec des contrats de crédit bail qui ensuite vont faire l'office d'une titrisation, soit bientôt, la loi n'est pas encore passée, mais le texte est déjà rédigé et validé par à la fois la chancellerie et le ministère des Finances, la loi sur la fiducie. Donc l'idée, c'est de pouvoir isoler des biens immobiliers dans des fiducies où les fiduciaires pourront à terme les titriser via non pas des fonds communs de titrisation, mais des fonds communs de fiducie, les FCF qu'on verra bientôt. Et donc Anwar Adam, c'est marrant, c'est un ami et il travaille chez Qatar Islamic Bank, mais lui, il travaille dans la partie banque d'affaires, dans la Qatar Islamic Bank, et dans la banque d'affaires, on ne fait absolument pas de Mourabaha. On fait toujours de l'istisna, de la musharaka, de la mudaraba ou de l'ijara, mais rarement ça. Voilà.
Une autre question sur...
On peut continuer?
Oui.
Alors,
Alors sur...
Moi je touche pas au halal, tout ça, c'est pas mon domaine du tout. Vous avez parlé du Soudan, de l'Iran et du Pakistan. Ça, j'adore cette question parce qu'il faut tordre le cou à des évidences. D'une part, le Pakistan a de facto, déjuré, islamisé son système bancaire en 84. De facto, la finance islamique au Pakistan, c'est que 15% du marché. Ensuite, le Soudan, ça aussi c'est un pays que j'aime beaucoup, le nord du Soudan a totalement islamisé son système bancaire et le sud du Soudan a totalement désislamisé son système bancaire. La part de marché de la finance islamique au Soudan, là je regarde mes étudiants parce que c'est eux qui ont fait ce travail-là de quantification de tout ça, c'est 72%. Donc le Soudan c'est le pays au monde où la finance islamique est la mieux enracinée, mais c'est pas 100%. Enfin vous dites l'Iran, vous dites que l'Iran a islamisé son système bancaire, c'est pas vrai. L'Iran a nationalisé son système bancaire et les banques iraniennes font de la finance islamique Canada Dry. Je les connais, les banques iraniennes, je les ai notées dans une autre vie, Saderat, Melli, etc. Quand vous regardez les comptes des banques iraniennes, pardonnez-moi, mais ce n'est pas de la finance islamique. En tout cas, pas comme on la comprend, ni dans le Golfe, ni en Malaisie. Donc en l'occurrence, voilà. Alors, cette nationalisation du système bancaire iranien, elle est partielle, elle est sujette à caution, elle est tout ce que vous voulez, il y a plus ou moins d'intérêts privés, etc. là-dedans, mais c'est pas vraiment de la finance islamique. C'est pas vraiment de la finance islamique. En tout cas, tel qu'on la comprend dans le monde sunnite et dans le monde de l'Asie du Sud. Voilà. Alors, le takaful n'est pas obligatoire. Dites, on oblige le client à souscrire un contrat de takaful, c'est jamais obligatoire, c'est conseillé. Et en l'occurrence, s'il n'y a pas de contrat de takaful, en général, l'ajustement, il se fait par le prix. Et donc les clients ont tout intérêt à se protéger. Sinon, typiquement, on vous charge. Hein, le banquier n'a pas à prendre le risque agricole, ce n'est pas son métier. Le métier, c'est de prendre un risque de crédit. Je discuterai après la liquidité des normes à Wi-Fi, on va parler du RALA.
Juste, moi, je réponds à quelques questions qui ont été posées, on va dire, qui concernent le droit musulman. Déjà, pour la Murabaha, pour continuer sur les pourcentages, il faut savoir que chaque pourcentage, il a un contexte particulier, une clientèle particulière. Donc après, vous pouvez trouver, et puis c'est dynamique, ça change en fonction des statisticiens, c'est toujours des sondages, c'est toujours des choses qui peuvent bouger. Donc il faut pas être trop, on peut pas être très précis là-dessus. D'autre part, pour ce qui est de gharab, moi j'ai dit la chose suivante très exactement, et c'est ce que j'ai écrit, c'est que le gharab, c'est une notion qui existe dans le commerce. J'ai donné un exemple très simple que les fuqaha répètent tout le temps. C'est par exemple l'agriculture. Par exemple, vous avez les carottes qui sont enfouies dans la terre. Donc, quand vous vendez par exemple vos produits, vous ne pouvez pas savoir d'avance si effectivement ça sera 2 tonnes ou 2 tonnes moins quelque chose, etc. Donc là, les fuqaha disent par facilité, parce que l'islam c'est aussi une religion de facilité, c'est par facilité, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu et que vous ne pouvez pas contrôler. Ils disent par facilité, on tolère un petit pourcentage d'erreurs qui est dû à la nature du produit. C'est ce qu'on appelle un gharar non excessif, tolérable. C'est ce même gharar qu'on va trouver dans le takaful. Dans l'assurance islamique, on va trouver la notion de gharar, parce que vous êtes en train de vous assurer contre des choses qui peuvent se produire comme ils ne peuvent jamais se produire. Mais comme ce contrat est à la base, son intention n'est pas commerciale, son intention ce n'est pas de produire de l'argent, mais cet acte ta'awun wa irfaq, donc c'est un contrat de solidarité et d'entraide, ce qui est très différent sur tous les plans, parce que dès qu'on rentre dans le commerce, il y a un code de conduite. Mais comme on n'est pas dans le commerce, on est dans la solidarité mutuelle et participative entre les contractants du takaful, là, le ralal est toléré, parce qu'il est, il y a l'intention de base qui est d'aider le prochain s'il est en difficulté. Donc ça, c'est toute la grande différence, ta'awun al-birri wa taqwa, donc toute la différence entre l'assurance commerciale et l'assurance solidaire islamique, qui fait partie de... Enfin, qu'on a fait déjà une conférence sur ça, mais que vous allez... Enfin, je peux vous donner après des références et tout. Non, le rara dans ce contexte particulier, qui n'est pas effectivement commercial et qui n'est pas voulu, est toléré. Mais il ne faut pas évidemment généraliser, il ne faut pas extrapoler. C'est dans un cadre particulier. Et... Voilà, ça c'est un peu... Oui, c'est vraiment, c'est ce qu'il a dit, par exemple, Qardawi, il a dit, c'est-à-dire on le quantifie par l'habitude des gens. C'est-à-dire, est-ce que dans ces produits, dans ces ventes de produits, est-ce que habituellement quand on le vend, il y a tel ou tel pourcentage d'erreurs estimé à 2%, etc. Donc ceux qui disent que le rarar est interdit se trompent, à mon avis. Il généralise, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut vraiment dans l'absolu. Il n'y a pas d'absolu en islam. Il y a toujours, même dans le tahrim explicite de quelques interdits alimentaires que vous connaissez, en cas de contrainte, voilà, la contrainte lève l'interdit. Donc il n'y a pas d'absolu. Hein. C'est, dans le gharar en particulier, quand on dit le gharar est interdit et on se tait, on peut amener à mal interpréter les propos de la personne. Voilà. Et une dernière chose par rapport à ce que disait le monsieur par rapport au tekeful, quand greffe au contrat de Murabaha, il y a des exemples de contrats que j'ai trouvés de Murabaha qui sont greffés à du rahm, du kafala et du tekeful. Mais comme je disais dans l'exposé, ce n'est pas obligatoire. Le contrat de Murabaha est un contrat indépendant. Après, pour se protéger contre le risque client, eh bien, on fait, on greffe à ce contrat-là un contrat de kafala, c'est-à-dire une garantie, une caution, et on ajoute du takaful, de l'assurance solidaire islamique, pour se protéger contre tel et tel aléa. Donc ça, c'est très important et c'est pas une obligation. Puis une dernière chose, par rapport au taux d'intérêt, ça embrouille beaucoup de gens quand on parle de calcul de la marge de la murabaha par rapport au taux d'intérêt. C'est simplement technique, c'est pas factuel, c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre la marge de la murabaha et les taux d'intérêt. Aucune relation au point de vue juridique. En jurisprudence islamique, la marge de la murabaha, c'est la loi du marché. Et donc le fait qu'on assimile cette marge, qu'on veut calculer cette marge par rapport à un existant qui est taux d'intérêt, taux du marché, pourquoi pas? C'est pas interdit en soi. Parce que c'est pas un taux d'intérêt effectif. C'est pas, on vous charge pas le produit par rapport à une peine, enfin par rapport à, on charge pas une dette. Dernière chose par rapport à financièrement parlant, il y a aujourd'hui dans le Golfe à peu près 4000 milliards de dollars d'épargne. 1000 milliards à peu près, comme il a dit Anwar Hassoub tout à l'heure, sont prévus pour, peuvent évidemment être à disposition, peuvent être le résultat de la finance islamique. 100 milliards, il y a un manque à gagner en France de 100 milliards. Donc effectivement, c'est assez juteux. Et en septembre 2009, on a peut-être les deux premières banques d'investissement islamique en France. C'est assez juteux, ce qui m'amène à dire, tout de suite, parler du problème des charia à bord et de leur indépendance. C'est un grand débat qui s'ouvre, parce qu'actuellement, les charia à bord, dans la pratique des choses, les charia à bord siègent. Ce qui fait qu'ils sont payés par la banque, ce qui fait que leur crédibilité n'est pas toujours, reconnue par tout le monde. Ça, c'est pas...
Sauf en Malaisie, où ils dépendent de la banque.
Sauf peut-être dans des pays, mais le cas général, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a tout un débat, toute une restructuration de ces charia à bord, et cette régulation qui ne se fait pas sous contrôle aujourd'hui, qui doit être fait, c'est tout à faire, pour contrôler, la conformité à la fois des produits financiers à la charia, d'une part, et d'autre part, à une éthique, parce qu'il y a aussi une éthique. Parce que, imaginez quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se retrouve dans l'incapacité de payer, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a quelques banques, je ne vais pas citer les noms, elles jettent les gens dehors, elles ne donnent même pas l'adhération ULMSRA, ça n'existe pas chez eux. C'est-à-dire, ils ne vous donnent même pas un délai pour vous rabattre et pour trouver autre chose. Donc là, c'est tout le côté éthique à revoir par rapport à certaines banques, par rapport aux pratiques de certains banques, parce que l'islam, effectivement, on a tout intérêt à donner le et puis les pénalités de retard, ça n'existe pas. Mais le moment, c'est-à-dire celui qui est en capacité de payer et qui ne paye pas, celui-là, on peut lui imposer une sanction. Et donc là, c'est un autre débat. Et donc,
Il y a trois modèles de conseil de conformité. Un modèle centralisé, c'est la Malaisie, au niveau de la banque centrale. Un modèle décentralisé, c'est le Golfe, où chaque institution a son propre conseil de conformité. Et le modèle occidental, le modèle européen, typiquement, vous avez des conseils indépendants. Qui sont des sociétés de conseil et qui conseillent les institutions en France. On aura les deux derniers. On aura chaque institution financière islamique aura son propre charia board. Et puis il y aura des charia board de place. On appelle les charia board de place. On a déjà un, il y en aura bientôt deux et puis vraisemblablement trois. Alors la question que vous posiez, monsieur, parce qu'il faut quand même répondre sur la compta. Il y a trois types de normes comptables, les normes comptables internationales, les normes comptables nationales et les normes comptables islamiques. AOIFI, nationale et IFRS. Les banques islamiques, on a fait cet exercice en 2005, hein, de savoir avec quelles normes comptables elles transposent leurs comptes. Alors, vous avez des banques qui transposent leurs comptes en AOIFI, d'autres typiquement à Bahreïn, des banques qui transposent leurs comptes, qui expriment leurs comptes en comptabilité nationale, c'est Pakistan, un exemple tout simple. Et puis les IFRS, c'est l'Arabie Saoudite. Et notre ce qu'on aime le mieux, c'est des banques islamiques qui s'expriment en IFRS. Et quand les IFRS sont silencieux, elles utilisent la Wi-Fi. Alors en France, comment ça va se passer? C'est exactement comme ça que ça va se passer. Les comptes sociaux vont être en comptabilité, en arme comptable nationale. Lorsqu'elles vont commencer à émettre soit des soukouks, soit des titres, elles vont être obligées de parler le langage IFRS, mais aussi les normes à Wi-Fi lorsque les IFRS sont silencieuses. Donc c'est une approche duale. Alors qu'en est-il des normes à Wi-Fi? Elles sont aujourd'hui traduites par Paris Europlace et par d'autres acteurs de la place financière de Paris qui traduisent des normes à Wi-Fi. Il y en a plus d'une trentaine. Et voilà, elles seront bientôt disponibles en français ici chez nous.
Si c'est vrai que banque islamique va revenir en France, on va appliquer les IFRS à cet endroit, c'est très important. Et à partir de là, je me demandais s'il n'y a pas des problèmes par rapport à l'IGR métallique et à l'ISD7, par exemple, où le salaire ne voit pas, qui serait peut-être encadré par l'ISD39. Et donc là, ce serait peut-être plus un problème. En fait, ce serait pas silencieux, mais à partir de là, tout le monde pourrait appliquer ces normes par rapport à ce type de contrat. Et une autre question concerne le CHIRS précisément, c'est par rapport à l'actif, s'il n'y a pas de marché, comment est-ce qu'on peut déterminer le prix d'un actif et est-ce que le principe de travail ne pose pas de problème par rapport à l'actualisation de
l'actif? Sur les normes comptables, typiquement, la banque, on a eu ce problème-là avec la Banque de France il n'y a pas longtemps, donc je peux vous répondre. Typiquement, les normes IFRS sont très proches des normes à Wi-Fi. Ça, c'est une première chose. Les normes à Wi-Fi et IFRS divergent justement sur la comptabilité de l'IJARA. Donc, on va demander vraisemblablement une exception hein, pour l'IJARA et les traiter sous normes à Wi-Fi. En principe, ça devrait être bon. Alors ensuite, sachez que phase 17, le Financial Accounting Standard 17 de la Wi-Fi, s'est rapproché considérablement de IAS 39 hein, sur la fair value, sur la comptabilisation. La fair value, c'est la comptabilisation de la juste valeur et le mark to market, donc c'est la valorisation d'un actif à sa valeur identifiable sur le marché. Sauf en cas de baisse, non pas temporaire mais durable, auquel cas il faut passer une provision. Et là, en l'occurrence, phase 17 s'est rapprochée de IFRS 39 en février 2008. Donc en principe, il n'y a plus trop de problèmes sur la comptabilité des actifs. Il y a une seule exception, c'est l'immobilier. L'immobilier reste valorisé au coût d'acquisition, moins les provisions enregistrées pour perte durable. Donc en l'occurrence, il ne devrait pas y avoir de problème en comptabilité duale. Les normes en comptabilité sociale, en revanche, on continuera d'appliquer la comptabilité française. Mais là, en termes comptables, il n'y a pas de problème majeur en matière de réconciliation. Sur l'autre question, je laisse la parole.
S'il vous plaît, dans le cadre d'un système bancaire islamique en France, comment peut-on envisager l'intervention des autorités monétaires dans tout ce qui est orientation, débit et autorisation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment peut-on envisager l'intervention des banques islamiques en France dans le marché monétaire? Est-ce que ça sera une intervention dans un marché monétaire global? Ou bien on pourrait éventuellement envisager un marché monétaire vraiment spécial, spécifique. Et merci.
On va d'abord répondre à la deuxième question du jeune homme et puis ensuite on prend la
Même
Même question, c'est comment on peut faire quand il n'y a pas de marché, comment on valorise un actif
Aujourd'hui, la France islamique a un important développement. Et je veux savoir à quelle école on fait référence quand on voit la France islamique. C'est des bonnes. Parce qu'aujourd'hui, la Jésus part en Malaisie. Il y a un produit proposé en Malaisie, qui sort en Malaisie et pas
je la prends.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus un centre juridique, justement, qui va être construit pour organiser justement la France
islamique? D'accord. Alors, je vais apprendre votre question sur la net present value, la valeur actuelle nette. C'est-à-dire, comment on fait quand il n'y a pas de marché pour fixer un prix à un actif? Est-ce qu'il y a une différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle? Non. Typiquement, la net present value, c'est quoi? C'est actualiser des flux futurs. Et le taux d'actualisation, c'est un taux de rendement. D'accord? Le taux de rendement en général, notamment sur le marché obligataire, c'est un taux d'intérêt. Et bien ici, le taux de rendement qu'on utilise, c'est le taux de rendement lié au cash flow et au niveau de risque de l'actif en question. La question que vous posez ne se pose pas typiquement pour les biens immobiliers, ne se pose parce que ce sont des loyers, ne se pose pas pour les actions, ne se pose pas pour les fonds, se pose essentiellement pour les soukouks. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour net present value, valeur actuelle nette d'un soukouk, et bien on fait exactement la même chose que pour la finance conventionnelle. On prend un taux de référence, en général le Libor, et on ajoute le spread, et le spread c'est typiquement celui du soukouk, plus la prime de risque qui est liée au rating, par exemple, du soukouk s'il est noté, et s'il n'est pas noté, ben on donne un proxy, c'est-à-dire que la banque va faire sa propre notation sur l'actif en question. Donc conceptuellement, il n'y a pas de différence majeure entre la valorisation d'un actif en finance conventionnelle et la valorisation d'un actif en finance islamique si un marché explicite n'existe pas, donc si on ne peut pas observer un prix sur un marché. Voilà. Alors la question que vous posez, chère madame, sur ça, c'est fondamental. Il y a eu en mars dernier, le 4 et le 5 mars dernier, le séminaire de l'IFSB sur justement ça, comment est-ce qu'on régule une banque, et typiquement comment est-ce qu'on gère sa liquidité. Et bien justement, la régulation, elle va se faire à l'aune de la régulation française, donc les banques islamiques seront soumises à la même régulation que n'importe quelle institution financière conventionnelle en France. La deuxième chose, c'est sur la liquidité, et c'est là que le bât a blessé, c'est typiquement lorsqu'on gère la liquidité d'une institution financière, ce sont des instruments de taux. Donc comment on fait, en l'absence d'instruments de taux charia compatibles, pour gérer la liquidité en France? Et bien typiquement, la banque islamique, en l'absence de soukouk, va être obligé de faire des placements interbancaires, donc des commodity murabaha, donc des short-term commodity murabaha, en plaçant son excès de liquidité auprès des contreparties bancaires françaises, exactement comme n'importe quelle banque islamique place chez Deutsche. Alors vous allez me dire, mais qu'en est-il s'il s'agit d'une liquidité d'urgence, emergency liquidity? Le jour, ça c'est pas un problème s'il n'y a pas d'urgence. Le problème c'est quand il y a une urgence, quand vous devez lever 500 millions d'euros, comme ça, très très vite, auprès des contreparties, les contreparties vous disent non. Soit parce que vous avez un risque idiosyncratique lié à l'institution, soit parce que vous avez un risque systémique. Typiquement, est-ce qu'il y a des instruments banque centrale pour faire ça? Et bien, la banque centrale ne va pas vous faire une commodity murabaha. Donc qu'est-ce qu'elle va vous faire? Et bien, vous avez deux choses. Vous avez la charia compatibilité d'une part, et vous avez l'avenir de la banque d'autre part. Vous faites quoi? Et bien, vous protégez votre banque. Et là, typiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever des fonds d'urgence, ribaou. Et voilà. Et on va demander au Sharia Board de nous donner l'autorisation pour. Voilà. Mais ça, mais effectivement, on n'aura pas d'autre choix. Parce qu'il n'y a pas d'instrument de repo pour mettre en placement auprès de la Banque Centrale des instruments contre de la liquidité charia. D'ailleurs, même dans les pays islamiques, je ne suis pas sûr qu'il y en ait.
Non, juste j'ajoute un mot sur cette question-là, que les banques islamiques ne vivent pas dans un autre monde, c'est-à-dire elles sont dans ce système mondial, elles vivent dans ce système mondial. Bakr Sab, qui est, malgré que c'est un chiite, il a une parole extraordinaire, c'est le premier qui a commencé à parler des bases de l'économie islamique dans son livre Tessaduna. Il a parlé, le premier jour qu'il a parlé de la banque islamique, il a parlé de l'Arabie, la boule de l'époque islamique, il faut que la banque islamique agisse dans un terrain purement islamique à 100%. Mais c'est pas parce que la banque islamique, il n'y a pas un terrain à 100% islamique qu'elle ne va pas travailler. Aujourd'hui, on assiste à les institutions internationales, au moment où la crise passe en plein, il est absent de la FMI, la Banque mondiale, je ne les entends pas. C'est-à-dire, les donneurs de leçons des pays du tiers-monde, qui donnaient ces ordonnances uniques à tous les pays du tiers-monde dans les questions de l'endettement, on ne les a pas entendus dans cette crise-là. On a fait appel indirectement aux banques islamiques et, entre autres, la France à la traîne. Donc, le système financier islamique, il doit s'imposer, il doit s'adapter. Alhamdulillah, il s'adapte, il s'impose et on fait appel à lui au moment des crises.
C'est la question que vous posez, il y a un corollaire. Vous allez dire, mais comment on peut éviter une situation où la banque islamique en France va être en état de demander, d'exiger de la liquidité d'urgence banque centrale? C'est typiquement d'avoir une banque islamique très bien capitalisée et très liquide. La conséquence, c'est qu'elle sera forcément pendant les premières années pas très rentable. Mais ça, c'est pas grave. L'objectif, c'est de l'institutionnaliser, de l'enraciner, et puis après, on verra à quel point elle sera leveraged.
Je réponds sur deux petites questions qui sont quand même centrales. La première, des écoles de pensée islamique, ou ce qu'on appelle Madhahib Arba'a, qui sont reconnues dans le monde sunnite, qui font l'unanimité depuis le premier siècle, donc avec l'école Hanafite, puis l'école Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Ces écoles-là, il faut savoir que ce sont des écoles qui ont été unanimement reconnues, authentiques, depuis la première génération des musulmans, c'est-à-dire depuis l'apparition de ce qu'on appelle le fiqh, jusqu'à à peu près 1750. jusqu'au 18e, 17e siècle, où ils ont été un peu remis en cause par certains mouvements qui est apparu en Arabie Saoudite. Je ne vais pas détailler, parce qu'après on va rentrer dans la géopolitique et tout, ce n'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. Tout simplement, les écoles se sont basées sur des sources les plus fiables, qui sont le Coran, la Sunna, avec une interprétation des plus fiables, qui est l'interprétation des vrais salafs, c'est-à-dire de nos ancêtres pieux. Et il faut savoir qu'un texte, n'importe lequel, si vous prenez même un texte littéraire, vous pouvez l'interpréter comme bon vous semble. Si vous n'êtes pas, si vous suivez pas une ligne de conduite particulière, je vous cite une phrase, comme tout à l'heure on parlait du halal qui est interdit. Quand vous voyez le prophète Sassama qui a écrit un hadith comme ça, et vous ne savez pas quelles sont les autres situations, ou quel est le contexte, et quelles sont les situations où effectivement, est-ce que ce hadith accepte une généralisation, est-ce que ce hadith est spécifique à une situation, est-ce qu'il y a d'autres hadiths qui le détaillent, ou qui restreint sa portée, etc. etc. Donc si vous ne savez pas tout ce mécanisme de l'ijtihad, des outils de l'ijtihad, en termes de fiqh, eh bien vous ne pouvez pas interpréter un texte, et vous n'avez pas le droit d'interpréter tout seul un texte, contrairement à ce que disent certaines idéologies qui permettent à n'importe qui d'interpréter les textes juridiques. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, et ça nous amène à des contresens, ça nous amène, entre guillemets, même à l'égarement et à l'instrumentalisation de la religion pour des fins terrestres. Donc, les écoles de pensée, les quatre qui existent, leur divergence est une richesse pour nous et une miséricorde. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire, si par exemple l'école chafiite en Malaisie a décidé que ce produit-là est valable au niveau de la charia parce qu'ils ont déroulé pas mal de preuves et ils ont interprété pas mal de choses autour de cela, et si en Arabie Saoudite l'école Halbalite a décidé que non, c'est pas interdit, moi personnellement je respecte les deux. Je respecte les deux avis. Pour moi, ce sont deux avis recevables si et seulement si ils rentrent dans le cadre de l'ijtihad reconnu par des savants reconnus, et qui effectivement rentre dans ce qu'on appelle l'ijtihad qui est donné aux savants. Deuxième point essentiel sur lequel je voulais rebondir, c'est la question qui a été posée par quelqu'un sur un papier, qui est la question de l'illicite. Quelle réaction dans un marché où il y a vraiment le mélange de tout? Comment un musulman peut se protéger contre l'illicite? Et comment on peut savoir qu'un fonds, comment on peut savoir si on peut investir dans un tel fonds, et si là c'est tout un débat juridique aussi qui s'appuie sur trois éléments essentiels. Premier élément juridique, c'est l'origine de toute chose, c'est la licéité, tant qu'il n'y a pas de texte qui dit contraire ou qu'il n'y a pas de préjudice subi par cette chose. Deuxième chose, c'est tabayyun al-asala. Ça veut dire l'origine de la chose, c'est-à-dire l'activité principale de la société est une activité licite. Maintenant, il y a des activités secondaires qui sont illicites par la force des choses. Là aussi, les savants nous disent qu'il y a effectivement possibilité de travailler avec cette monde. Ça, c'est ce qu'on appelle Tabayyun Asala. Troisième chose, c'est Qilla ou Katra. Par exemple, dans la jurisprudence du culte, on dit qu'une petite quantité de souillure ne souille pas une grande quantité d'eau pure. C'est ce qu'on appelle Qilla ou Katra. Et cette notion-là, elle a été utilisée très largement dans le monde de la finance islamique, qui est un monde très mélangé, où vous avez des fonds islamiques avec d'autres fonds, avec des fenêtres, ce qu'on appelle les Islamic Windows, etc., qui ont été validées suite à ce principe-là. Et le dernier principe, c'est Imam Balwa, ça veut dire, en point de vue civilisationnel, on évolue dans un système où on n'est pas maître. Faut savoir, vous savez tous que le monde musulman a perdu le comment on appelle ça, le fil et la puissance depuis un certain nombre de siècles. Donc c'est pas maintenant qu'on va essayer de dire que il faut que ça soit 100% islamique. Évidemment, c'est ce qu'on espère, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et on aspire évidemment à un charia board qui est à la fois indépendant et avec un comportement avec les finances illicites, ou du moins le fonds financier global, un comportement réfléchi et sage qui à la fois respecte l'esprit du texte et en même temps ne prive pas les musulmans d'opportunités d'investissement.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Je me présente, je suis non spécialiste de la question et je remercie M. Asso d'avoir vulgarisé certains concepts. Ce qui m'a permis de comprendre une chose, c'est le contexte actuel dans lequel nous sommes, à savoir la rencontre de deux titans, l'un qui recherche une identité et l'autre qui a besoin de répartir ses risques. À côté de ces deux titans, il y a des millions de musulmans qui font actuellement du bricolage. Lorsque vous avez parlé de la microfinance, on a vu que c'est BFC, enfin, BFC, 2% des engrais qui avaient été distribués par les musulmans à la mairie du 18e, etc. Ce qui me permet d'atteindre le niveau du bricolage.
Ouais.
Et dans les réflexions actuelles, moi, la question que je me pose, c'est cette minorité encore invisible qui est assez nombreuse, est-ce que c'est une composante que vous avez intégrée dans ce système,
ouais,
ou pas?
Ouais.
Une question d'avant de l'État elle avait été esquissée, mais comme je n'ai pas répondu, je me permets de revenir, parce que ça me paraît important de penser aussi à ceux qui sont à côté, est-ce qu'on les intègre, vous êtes en phase de réflexion, est-ce qu'on les intègre dans ce système où le bricolage va continuer, et si oui, ils vont être intégrés, sous quelle forme et quelle risque aussi.
Ben c'est super. Justement, l'idée c'était d'aller très vite dans le petit laïus introductif pour ensuite rentrer dans les détails. Ce que vous me demandez, c'est plus de détails sur le business model des différentes banques. Et ben typiquement, la banque d'affaires, donc la banque BFI qui va voir le jour, a une vocation universelle à 3-5 ans à servir la clientèle musulmane particulière, donc les particuliers, les ménages. D'autre part, la fenêtre islamique de la banque française, de là où des banques françaises qui souhaitent enraciner les produits islamiques en France sont à vocation retail. Hein, les banques françaises de réseau ne s'intéressent pas à la banque islamique de gros, elles s'intéressent à la banque islamique de détail, essentiellement pour la levée de fonds. Et d'autre part, les filiales islamiques des banques charia compatibles du Golfe qui veulent s'installer en France sont là pour faire à la fois du corporate et du retail. Donc en l'occurrence, à terme, il y aura les deux. Pour être très très précis avec vous, d'où viendra la première offre retail en France charia compatible? Je pense d'une banque déjà installée, d'une banque française déjà installée. La deuxième offre retail, donc pour les particuliers de finances islamiques, viendra de la filiale française d'une banque islamique du Golfe, pas de Malaisie, du Golfe. Et enfin, la banque islamique corporate, donc la banque islamique d'affaires, devrait universaliser son modèle à horizon 3-5 ans. C'est assez clair ? Alors, dernière chose sur le retail, sachez que là, c'est le retail plus TPE, très petite entreprise. Le portail islamjets.com qui existe déjà, qui devrait s'industrialiser dans les mois et les années à venir, c'est justement pour les petits projets. Les petits projets d'entreprise, typiquement un magasin, typiquement une série de sociétés immobilières ou des choses comme ça, à moins d'1 million d'euros, ça, j'appelle ça du retail, c'est pas du retail particulier au sens ménage, c'est du retail plus business. Et puis Global Secure Finance, la deuxième société, c'est des deals de plus d'1 million d'euros. C'est pas vraiment du retail, c'est davantage de la banque d'affaires sans bilan. Voilà.
Salam alaikum wa rahmatullah. Notre frère Mostafa, donc étudiant à l'UFSI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut français des études de sciences islamiques, basé à Roissy-Saint-Denis. Et dont le directeur et fondateur est M. Abidi, pour ceux qui le connaissent, et qui est un grand spécialiste dans le domaine, si vous intéressez peut-être, non pas de la jurisprudence islamique, parce que ce n'est pas la véritable traduction, mais plutôt du droit et de la jurisprudence islamique. Premièrement, je souhaiterais vous remercier tous, notre professeur Alain Hassour, et ainsi que tous les participants et participantes qui essayent, en tout cas, tant bien que mal, d'être des acteurs fervents sur la scène de la finance islamique. Moi, c'est juste une petite remarque, et j'essaierai d'être le plus bref possible, qui est adressée à vous tous ici présents, et en précision à mon frère Tarek, c'est ça, je ne sais pas. Voilà. Et concernant l'aspect du halal qui a été utilisé tout à l'heure, et assez bien explicité par le monde. À mon humble avis, il faut éviter, on est à l'avènement de la finance islamique en France, il faut éviter de semer l'amalgame. Je je m'explique, bien sûr. Sur la valeur, par quoi? Il faut essayer, et bon, à l'impossible, nul n'est tenu, mais ce n'est pas de l'ordre de l'impossible, mais plutôt du faisable. Il faut essayer d'être toujours le plus clair possible lorsque, et notamment lorsqu'il s'agit là de choses là, de droit islamique, et donc de choses très, 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 très importantes. Et sur la virgule, on peut commettre des erreurs parfois impardonnables. Maintenant, par rapport à cela, donc, par rapport à la notion de rara, il faut distinguer deux plans. Le premier plan, c'est ce qu'on appelle al-lughawi, c'est-à-dire linguistiquement parlant. Et le deuxième plan, qui est là, qui est la convention. Donc, al-rara, si je peux modestement apporter un complément à mon frère Tarek, lorsqu'il dit que le rara est permis parfois, ce n'est pas le rara en lui-même conventionnel, parce qu'il faut toujours différencier deux aspects. Ce n'est pas le rara qu'on entendu conventionnellement qui est autorisé, cela ne saurait être, mais plutôt le rara entendu linguistiquement, qui est une certaine ignorance, une certaine incertitude quant à certains tenants et aboutissants du contrat. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on dit, par exemple, que telle ou telle chose est interdite. Par rapport à l'histoire des récoltes, on appelle ça plutôt en fait une jahala fahija, et non pas du rara. Et c'est cela qui est d'ailleurs compris comme vision ou comme également menant à vicier le contrat. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire vraiment très attention. Et voilà. Et encore une fois, je vous remercie.
C'est fascinant ce que vous dites. Moi aussi, j'adore les débats sémantiques, tout ça, mais je voulais simplement apporter une contribution de fait dans les faits. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est quelque chose de très terrestre. J'aime bien ce qui se passe au niveau de la Terre. Alors, typiquement, dans la banque, comment ça va se passer? Et comment ça se passe sur le RALA, sur la spéculation, l'incertitude, des choses comme ça? Et bien, typiquement, la Banque islamique en France, qui va faire du corporate, hein, qui va faire de la BFI, elle va prendre des participations dans des PME, dans des projets, elle va faire du CISNA. Est-ce qu'il y aura un trading floor? Non, il n'y aura qu'un dealing room. Quelle est la différence entre un trading floor et un dealing room? Typiquement, elle ne prendra pas de position à 3 mois sur des actions. Ce n'est pas son objectif. Elle ne spéculera pas sur des soucoupes, à la hausse ou à la baisse. Elle ne fera pas de WAD pour faire du short selling, donc de la vente à découvert. En revanche, lorsqu'elle prendra des participations, elle prendra des participations sur un horizon long pour accompagner les entrepreneurs dans la création de valeur, dans la création de richesse et la création d'emplois. C'est son ethos. C'est son habitus, on espère que ça deviendra son habitus, et on espère aussi que ça deviendra sa raison d'être. Alors, effectivement, sur les aspects de marché, en matière de risque de marché, elle engendrera moins de revenus que la plupart des banques qui ont justement des trading floors. Mais qu'à cela ne tienne.
Justement, une petite chose, si on veut s'attarder sur les détails qui peuvent effectivement gêner. Le rara, comme on l'appelle, effectivement, il a deux sens. Simplement, on trouve dans les ouvrages de nos ancêtres pieux, فَإِنَّ الْغَرَرَ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ. Ça, je vous le dis en arabe parce que ça a été écrit par un grand savant du 3e ou 4e siècle. وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الْعُرْفِ لَمْ يُحَرَّمِ الْبَيْ. Donc, si le rara est très peu, et on considère ça par l'habitude des gens. لَمْ يُحَرَّمْ لَيْ وَذَلِكَ كَمْ بَيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْأَرْضِ. Ceci comme la vente des choses qui sont enfouies dans la terre, comme le carotte, fèche, le bassin, donc le وَنَحْوِيَا وَكَمْ بَيْعِ الْمَقَاتِ مَزَارِ الْقِتَى, donc la citron, etc. كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ الَّذِي يُجِيزُ بَيْعَ كُلَّ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَيَقِلُّ غَرَرُهُ بِحَيْثُ يُحْتَمَلُ فِي الْعُقُودِ. Donc là, il s'agit vraiment de gharar. Simplement, l'intention, tout acte est conditionné par l'intention. D'abord, il n'est pas accessible, d'une part. C'est pour ça qu'on distingue entre le gharar al-fahish et le gharar normal. On distingue le gharar al-fahish, si on veut, qui est celui où il y a l'incertitude et l'aléa très grand. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith, qui est clair, le prophète a interdit l'achat d'un animal non né dans la matrice de sa mère. Ça, c'est un gharar excessif. Parce que vous ne savez même pas ce qui va se passer. La vente du lait dans la mamelle sans mesure, etc. Donc là, on rentre dans les précisions. Effectivement, ce qui a été unanimement, je dis bien unanimement, interdit par tous les savants musulmans, c'est le gharar excessif, qui, effectivement, l'intention de base est elle-même de jouer sur l'aléa et de le quantifier et donc de le charger, et non pas celui qui est dans les transactions, comme on vient de citer, ou dans le contrat de Sakafoul.
Donc, une ou deux questions, et, parce qu'on a la prière de South Last qui arrive, et on a commencé quand même à 14h30, il est bientôt 18h, donc on va prendre une ou deux questions.
C'est un moment,
génial. Alors typiquement, le produit Sharia Liquidité de la SOCGEN, c'était un fonds monétaire. Moi, je ne parle pas au nom de la SOCGEN, hein, c'est la seule chose que j'ai, ce sont simplement les choses que j'ai apprises et comprises des présentations que la Société Générale fait de son produit. Donc c'est un fonds. Typiquement, c'est un produit d'épargne, ce n'est pas un produit de dépôt. Un produit d'épargne, donc vous déposez votre argent en tant que musulman. Le sous-jacent que vous avez, ce sont des commodities munabaha, donc c'est du marché monétaire. Donc vous recevez un rendement qui est lié au marché monétaire. Le sous-jacent, ce sont des commodities, donc commodities des matières premières. Et ces matières premières, c'était essentiellement du pétrole. Et c'était un produit qui était commercialisé par la filiale dans l'océan Indien de la Société Générale, mais structuré par SGIB et SGAM. SGAM, c'est Société Générale Asset Management, et SGIB, c'est Société Générale Investment Banking. Donc l'Investment Banking, la banque d'affaires, a structuré le produit et l'Asset Management l'a porté. Typiquement, le rendement sur le money market était inférieur au rendement d'un fonds monétaire normal. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des coûts de transaction. Tous les matins et tous les soirs, il fallait vendre et acheter des commodities, les loger à la banque d'affaires, SGIB, et ensuite les faire manager par SGAM. Et donc typiquement, il y avait des coûts de transaction, il y avait des frottements. Ça n'a pas empêché de lever, je crois,
15,7.
Aux dernières nouvelles, 15,7. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh bien, typiquement, la Société Générale est en train de rembourser l'intégralité de ce fonds. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'incertitudes sur le marché monétaire. Le marché monétaire est très tendu, la liquidité a quasiment disparu. Il y a énormément d'incertitudes sur les sous-jacents et ça coûte extrêmement cher à la Société Générale de faire ce produit. Donc typiquement, il va y avoir un remboursement de l'intégralité des 15,7 millions. C'est davantage sur l'incertitude là, c'est donc la Société Générale ne veut pas faire peser sur ses clients des risques inconsidérés. Donc typiquement, à préférer rembourser l'intégralité du fonds davantage que de faire porter à ses clients la volatilité sur le marché monétaire. Est-ce que c'était un succès ? Oui, c'était un succès d'un point de vue technique, c'était un succès commercial, et c'était aussi un succès du point de vue de la réputation de la Société Générale. La Société Générale en est ressortie grandie et non pas impactée en termes de réputation, ce qui était d'ailleurs l'arbitrage qui était en jeu. Typiquement, est-ce qu'il faut faire de la finance islamique retail en France ? Oui, parce qu'il y a 6 millions de musulmans, mais peut-être pas, parce que la réputation peut être endommagée. Je vous le dis comme c'est, hein, je n'ai pas tendance à tourner autour du pot. Donc en l'occurrence maintenant, la réputation n'est pas un souci majeur, en tout cas dans ce cas particulier. Et c'est la raison pour laquelle il y aura vraisemblablement de plus en plus de produits retail charia compatibles en France.
Alors, dernière question. Voilà.
Avant dernière, c'est plus qu'il y en a.
Bon.
A
bon.
Micro,
vous. D'accord.
D'accord.
Okay. Vite fait.
Allez. Et c'est un bon étudiant, je vais le bref. Vu la crise immobilière actuelle et les dispositifs fiscaux qui ont été mis en place, notamment cédés plus dernièrement, est-ce que la finance islamique institutionnalisée sera compatible avec ce genre de produit de défiscalisation dans la mesure où la propriété ne reviendra pas aux particuliers, mais bel et bien à la banque?
Absolument, l'immobilier c'est une classe d'actifs qui est fondamentale pour la finance islamique pour tout un tas de raisons. D'une part, le financement de l'immobilier c'est important socialement et donc la finance islamique y a tout intérêt et la banque islamique le fera. D'autre part, le financement immobilier ça permet d'organiser la titrisation. Ensuite, le financement immobilier ça permet de sortir un certain nombre d'actifs du bilan et de loger dans des fonds. L'objectif ensuite pour les particuliers en matière d'épargne, c'est de loger un certain nombre de classes d'actifs différentes. Le marché monétaire, la Société Générale l'a fait. Le private equity, donc le financement direct dans les entreprises pour augmenter un peu le rendement sur les fonds. D'autre part, les indices, c'est la raison pour laquelle Paris Europlace travaille à la création d'un indice charia compatible sur les equity, donc les actions cotées en France. Enfin, les soucoupes. Sukuk, les obligations islamiques. Comme vous le savez, les obligations islamiques, elles doivent être adossées à un actif tangible. Et donc l'actif tangible le plus communément utilisé dans les Sukuk, c'est typiquement l'immobilier. Est-ce que la propriété de l'actif étant celle de la banque et pas celle du particulier en question est un intérêt pour la... est un élément technique supplémentaire pour la banque islamique? Complètement. C'est totalement dans son intérêt que d'avoir ce type de dispositif.
Ouais. Mais ce n'est pas du tout l'objet de ma question, c'était par rapport plutôt au dispositif fiscal.
Alors,
la... nécessite la propriété, de garder la propriété pour un minimum 9 ans pour ce qui est du CD, voire 15 ans. Donc c'est plutôt par rapport à cette nuance.
Mais il n'y aura pas de différence entre une banque islamique et une banque conventionnelle à ce sujet-là? Enfin, je veux dire, en quoi la banque islamique serait plus ou moins... En quoi la finance islamique serait plus ou moins problématique au regard de cette question-là? Je pense qu'on est sur un même pied d'égalité. Absolument, sous un contrat de Ijara de crédit bail. D'accord.
Est-ce qu'il y a un montage par rapport à ça, ou est-ce que ce sera complètement exclu, ce titre, enfin, est-ce que ce sera complètement exclu du domaine de l'investissement?
C'est l'un de décembre, décembre 2008. Christine Lagarde, elle a fait un truc.
Si la banque islamique, d'accord, j'ai compris. Si la banque islamique n'est pas propriétaire du bien, ce ne sera pas une ijara. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que la finance islamique est exclue. Ça pourrait être une murabaha. Les deux contrats de ça, alors, il faut être très très clair sur ce sujet-là. Un contrat de finance islamique sera évacué. Ce sera le contrat de ijara. Mais on pourra parfaitement le remplacer par un contrat de diminishing musharaka, donc de copropriété, où le copropriétaire particulier est propriétaire d'une partie du bien immobilier, ça c'est totalement faisable, voire de la totalité, ou un contrat de murabaha, où là la banque islamique n'est pas propriétaire du bien. Donc en l'occurrence, les contrats sous-jacents, les idéotypes contractuels utilisables pour le financement immobilier sont au nombre de 3. Là vous faisiez l'hypothèse que la banque islamique faisait effectivement un financement via ijara, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Il y a une dernière question de l'autre.
Ah oui, ça c'est absolument. Si, parce que ça est absolument sur les soukouk et les murabaha, les rendements sont assimilés à des intérêts d'un point de vue fiscal. Asif, les anglo-saxons disent asif, en France on dit comme si, donc c'est exactement pareil.
Dernière question. Non, monsieur, c'était prévu une seule question, maintenant vous êtes à la quatrième.
Non, mais on peut aller très vite.
C'était prévu une seule question parce qu'on a la prière, on est déjà en retard. On va répondre pour les trois questions, barakallahu fik.
La dernière.
Allez-y. Vas-y, une cinquième.
Je vais être dans les contraintes de gérer les employés. Qu'est-ce que je dois faire?
Alors sur le Murabaha, c'est un achat-revente, donc il n'y a pas de location. Si vous voulez louer, vous pouvez louer en tant que client, mais vous l'aurez acheté auprès de la banque. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a une neutralité fiscale en France pour la Murabaha? La réponse est oui, depuis février 2009. Typiquement, les contrats de Murabaha d'achat et de revente sont neutres fiscalement, il n'y aura pas de double droit d'enregistrement. Ça a été neutralisé par le droit, en l'occurrence, ça a été publié au bulletin officiel des impôts. Sur la deuxième question, c'est en fait les dernières questions sont liées. Est-ce qu'il y a un problème de prix? Typiquement, la question se pose en ces termes. Effectivement, est-ce que la finance islamique est plus chère? Dans un certain nombre de jurisprudence, de juridiction, c'est le cas. Pourquoi? Parce que le droit n'a pas été ajusté. C'est la raison pour laquelle en France, on a ajusté le droit pour ça. Vous dites les 40%, c'est pas forcément nécessaire. Hein. Vous avez des banques qui prêtent à beaucoup moins de 40%. Alors après, c'est une question de statut. Ah ouais, parce que ça. Absolument, mais ça c'est une décision commerciale. La finance islamique n'a rien de particulier à dire sur les 40% d'apport, 35% d'apport, 30% d'apport. Pourquoi est-ce qu'une banque islamique serait différente d'une banque conventionnelle? Enfin, je veux dire, si la règle du marché c'est de dire que pour un certain type de clientèle c'est 40 ou 30%, je suis sûr que la concurrence prévaudra autant entre banques conventionnelles, entre banques islamiques et entre banques conventionnelles et banques islamiques. Ça dépend de l'appétit de la banque de vous avoir comme client. Voilà. Et la finance islamique n'a rien de particulier à répondre à cette question.
Barakallahu fikoum. On va se limiter à cela, Jazek. Parce que là, on n'y fait pas le temps. Juste quelques secondes, le Fatah va nous présenter quelques livres, va nous proposer quelques ouvrages. Donc, je remercie tout le monde. Barakallahu fikoum d'être venu. Je remercie nos frères et sœurs qui ont participé à ce colloque. Jazakallahu khairan.
Merci à toutes et à tous d'être venus. Alors, quelques références pour ceux qui aiment les détails. Il y a la finance islamique à la française, le livre connu sur la finance islamique. Il y a aussi Mohamed Boujdan, donc le livre sur la finance islamique avec ses contrats détaillés. Il y a aussi plusieurs sites. Il y a le site de FinEquity et il y a le site doctrine-maliki.fr où vous trouverez une rubrique effectivement sur sur la finance islamique. Il y a le site Aslama qui est pas mal aussi. Il y a peut-être il y a Islam France. Il y a des forums aujourd'hui sur la finance islamique qui permettent de répondre à des questions et d'aller plus loin s'il le faut. Il y a des formations. Et enfin, une annonce, donc, Inch'Allah, le 6 juin, samedi 6 juin à 19h, au FIAP Métro Glacière à Paris, une conférence sur la finance islamique. Cette fois, c'est un peu sur l'intelligence économique et la finance islamique. Il sera assuré par un faqih, un double doctorant, et avec quelques mots, Inch'Allah, ça va être annoncé, mais en tout cas sachez que la prochaine Inch'Allah c'est le 6 juin, c'est l'association Valeurs et Spiritualité Musulmane de France qui invite FinEquity et les autres intervenants, et merci à toutes et à tous.
C'est bon.